Je vous annonce la soirée. Donc, c'est la soirée sur le projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, plus couramment appelée DATSI. Vous avez entendu parler certainement depuis longtemps. Je ne sais pas du tout quels sont vos intérêts, si vous connaissez déjà le sujet, mais normalement, la soirée est faite pour le grand public, parce qu'on pense que c'est un thème qui importe pour n'importe qui, et qui est la loi qui vient d'être passée ce matin en commission mixte paritaire. Donc, on est dans une actualité très chaude. Est une loi très grave et qui met en danger plein de libertés, pas seulement liées à l'usage de nos ordinateurs et au numérique, mais notamment, et on va essayer d'aborder tout ça. Donc on commence par la projection du film de Jean-Luc Forêt, qui lève la main, qui est là-bas, au fond. Jean-Luc a fait ce film entre janvier et mars, ou avril. Et donc, c'est important de le savoir parce que historiquement, ça veut dire que toutes les données que l'on a actuellement sur le débat, sur la loi telle qu'elle est passée, tout ce qui s'est passé juridiquement, il faut replacer ça, il faut replacer les interventions des gens qui sont interviewés dans ce contexte où on n'avait pas toutes les données, où tout n'était pas passé à l'Assemblée nationale, encore moins au Sénat et encore moins en commission mixte paritaire. Donc le film dure une demi-heure. Après ça, on fait une intervention avec Christophe Esperne de UCD Info qui est là, voilà. Et qui a un dossier tout chaud avec, en venant d'imprimer ce qui vient d'être publié sur Internet, après la commission mixte paritaire qui nous racontera tout ça, et aussi pour l'historique de UCD Info, d'un militantisme qui n'existe pas seulement depuis le projet de loi et depuis que les journaux et les quotidiens en font leur pain, mais qui est une association qui existe depuis beaucoup plus longtemps que ça. Ensuite, après Christophe Esperne, on aura Olivier Hugo, qui est avocat impliqué dans le Libre sur différents projets et qui remplace au pied levé Jean-Baptiste Souffron, qui n'a pas pu venir non pas parce qu'il est souffrant, mais parce qu'il est à Rio de Janeiro pour défendre les Creative Commons et dans un projet d'un sommet lié aux Creative Commons. Et plusieurs des personnes que vous verrez dans le film sont aux Creative Commons. Après Olivier Hugo, on aura David Moniaud, qui est là, et qui nous parlera, qui a un blog lié au logiciel libre et qui nous parlera des questions d'informatique, d'interopérabilité et de ce que la loi DATSI met en jeu. Voilà, donc je pense que le débat durera trois quarts d'heure, une heure, et qu'ensuite on laissera place aux questions et qu'il y aura beaucoup de questions.
Juste une petite phrase de 40 minutes pour vous dire que pendant le tournage, entre décembre et mars, je vivais dans l'angoisse d'arriver trop tard, c'est-à-dire de finir le film alors que l'actualité montrait que le sujet était réglé, entre quelque sorte. Eh bien, je suis très content parce que grâce à notre gouvernement, le sujet n'est pas encore abouti. Merci, bonne soirée.
Je fais juste un dernier mot. Juste pour dire que la soirée est organisée par Paulins, qui a dans la salle Mathilde, qui est là. Voilà, et je remercie énormément Mathilde et Claire Scotton qui ont permis que cette soirée existe, qui ont fait les affiches, qui ont fait plein de choses sur la logistique. Et j'espère que s'il y a une nouvelle expérience dans le genre, ça pourra se faire. Et remercier aussi Diffusion ENS qui va filmer les débats et qui mettra tout ça sur Internet en libre diffusion, en Creative Commons, un peu plus tard. À un moment donné, dans la première intervention de Tristan Nitto, il parle du déjeuner qui vient d'assister. Et c'est un déjeuner qui avait été organisé par le ministre de la Culture, Don Lieu de Vabre, le 6 janvier, si ma mémoire est bonne. Et dans ce déjeuner, je ne sais pas si les gens ont eu accès au fichier, il y a un fichier qui circule sur Internet et qui retransmet quasiment l'intégralité de ce déjeuner. Et à l'intérieur de ce déjeuner, il y a un passage assez drôle où le ministre de la Culture dit carrément « Mais vous ne m'avez pas prévenu, vous ne m'avez pas invité. » Et il fait un peu comme dans la scène du Schpunz où le vieux dit « Mais vous ne m'invitez pas dans la blague, personne ne me prévient, vous me prenez pour un vieux et vous faites vos affaires dans votre coin. » Et je pense qu'en réécoutant ça rétrospectivement, c'est assez symptomatique de la manière dont le gouvernement s'y est pris pour faire passer les choses en force et pour faire des opérations de communication complètement bidon et en venir à ce qui a été aujourd'hui le coup de force avec la commission mixte paritaire. Je laisse la parole à Christophe Esperne pour nous faire le point sur tout ça.
Bonjour, donc je suis Christophe Esperne, je suis un des membres fondateurs de l'initiative UCD.info. Donc c'est un collectif citoyen qui a été lancé par la Fondation pour le logiciel libre, l'antenne française donc de la FSF, Free Software Foundation. Notre objectif, donc l'objectif du collectif, c'est d'informer donc sur la directive européenne dont on a parlé, qui s'appelle EUCD, pour European Copyright Directive. Et on existe depuis fin 2002, suite à la publication sur Internet d'un avant-projet de loi qui était dont le texte est issu, et que c'était un avant-projet de loi qui avait été rédigé au Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique. Alors je dis ça parce que ça va donner un peu une idée d'où vient le texte, qui est donc un organisme rattaché au ministère de la Culture. On peut parler de cuisine et dépendance, on ne sait pas si le CSPLA sont les dépendances du ministère de la Culture ou c'est l'inverse, puisqu'au CSPLA, on a toutes les grandes entreprises et les sociétés de gestion collective concernées par le projet de loi, et qui ont donc rédigé cet avant-projet de loi qui était un texte à l'origine purement répressif et qui l'est encore, même si les sanctions ont baissé. Donc moi, je vais faire rapidement un rappel sur le texte, d'où il vient et puis ce qu'il contient, suite notamment à la commission mixte paritaire qui finalement n'a pas changé, je le dis tout de suite, grand-chose au texte du Sénat. Donc c'est un texte qui est totalement inacceptable, j'expliquerai pourquoi, enfin selon nous, après. Donc le texte, comme je l'ai évoqué un moment dans l'émission, vient de deux traités internationaux rédigés à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui est un organisme dépendant de l'ONU, et qui aurait pu avoir pour mission en fait, de faire la promotion, de la diffusion du savoir, des arts, des œuvres protégées, qui se transformait en outil de rédaction de traités comparables à ceux qu'on peut voir à l'OMC, c'est-à-dire de régulation marchande des échanges de biens culturels, et de dispositions qui sont répressives et qui sont celles qu'on retrouve là. Donc, comme je l'ai dit, c'est un texte, les dispositions sortent des États-Unis parce qu'elles ont été rejetées et sont passées par là par le secrétariat d'État au commerce américain. Donc l'OMPI n'est pas un organisme qu'on peut qualifier de démocratique, il n'y a pas de parlement, donc c'est les exécutifs qui négocient entre eux sous des pressions et sans que le grand public soit forcément informé. Donc les exécutifs ont ce droit-là de négocier des traités internationaux, mais il faut bien voir qu'il y a déjà dès le départ une manœuvre qu'on pourrait qualifier de contournement démocratique visant à s'émanciper du Parlement et de l'opinion publique qui refusait ce texte. Le deal de départ, en fait, c'est Bill Clinton qui voulait être réélu, qui a trouvé un soutien auprès des industries hollywoodiennes et qui a donc fait en sorte que les dispositions soient appliquées. Donc ça devient une directive européenne. Quand on lit les débats parlementaires, on assiste à nouveau partout dans les débats, on voit des parlementaires européens, des députés européens qui dénoncent des pressions comme ils n'en ont jamais vu, des artistes qui viennent en renfort donc des grandes entreprises et qui sont utilisés comme tels. Donc c'est explicitement dit dans les débats parlementaires. Et ensuite, on arrive donc au CSPLA, qui est cet organisme, je dirais, où il y a tout le baronnat de la culture, les petits barons de la culture française, donc la SACEM, etc. Et puis, les grandes entreprises, les producteurs, comme Time Warner, Universal Music, Microsoft, Apple, ont des représentants via des organismes comme la BSA, par exemple, Business Software Association, et qui est une organisation qui, par exemple, avait rédigé le projet de directive sur les brevets. Donc c'est des gens qui sont spécialisés en lobbying et qui sont spécialisés pour faire pression et obtenir le type de disposition qu'ils souhaitent pour faire leur commerce. Sauf que là, ils siégeaient au ministère de la Culture et ils ont rédigé littéralement le texte. Donc à partir de là, le texte est posé en novembre 2003 et puis il y a 2 ans d'attente avant que le texte soit examiné, donc en décembre 2005. En sachant que l'urgence est déclarée, donc il y a une procédure d'urgence qui est déclarée sur le texte, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait des navettes parlementaires entre l'Assemblée et le Sénat, qui élaborent un texte en itération, là, il n'y a pas de navette parlementaire. C'est-à-dire qu'il y a juste une lecture à l'Assemblée, une lecture au Sénat, et ensuite le texte revient. Et soit il est conforme, les deux chambres ont voté le même texte, et le texte est proposé au vote à l'Assemblée qui l'adopte, soit il n'est pas conforme, et il y a ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, c'est 7 députés, 7 sénateurs qui se réunissent, c'est ce qui vient de se passer là, et c'est effectivement un coup de force, j'expliquerai après pourquoi, mais c'est effectivement un coup de force. Donc le texte est arrivé donc en urgence le 22 décembre 2005, c'est un texte qui est uniquement répressif, 3 ans de prison, 300 000 euros d'amende pour tout acte qui est potentiellement susceptible de porter atteinte aux droits d'auteur. Le fait de faire connaître directement ou indirectement une information qui pourrait faciliter le contournement d'une mesure technique, c'est-à-dire par exemple de faire une copie de trop, est puni jusqu'à 3 ans de prison, 300 000 euros d'amende. Donc ça, c'est le texte en l'état quand il arrive. Il est présenté la veille de Noël. Il est présenté entouré de représentants de Virgin et de la FNAC qui ont des badges ministère de la Culture et qui sont dans les salons parlementaires normalement réservés uniquement aux députés et qui font la promotion de leur site de vente en ligne et qui donnent des coupons à 9,99€ aux députés. Donc ça s'était jamais vu. Donc là, on est là une action de promotion commerciale dans des salons réservés aux députés puisqu'il y a des enceintes protégées à l'Assemblée. Donc là, c'est le ministère de la Culture qui cautionne et le ministre de la Culture dira plus tard « mais j'aurais voulu qu'il y en ait plus ». C'est une certaine façon de voir de l'Assemblée. Donc le texte, il est immédiatement tabassé par les députés de tous bords en discussion générale. Alors ça va de apôtre obscurantiste apôtre de l'obscurantisme technologique, donc pour désigner les personnes qui vont bénéficier, les personnes morales, donc les entreprises qui ont bénéficié de ce texte, un texte liberticide, donc ça c'est des UMP qui expliquent ça, c'est repris par l'opposition, dit exactement la même chose, donc le texte est littéralement tabassé, le ministre se prend, et je cite Libération, une véritable fessée qui s'achève par le vote de la licence globale, et là le texte tombe, c'est-à-dire qu'on est le 22 décembre, et la licence globale a été adoptée, et il y a une sorte de... Tout le monde se retrouve en suspension au-dessus d'un texte qui est complètement retourné. Alors là, s'ensuit une magnifique opération de désinformation, toujours selon nous, hein, on peut ne pas être d'accord, et de propagande, organisée par le ministère de la Culture et les lobbies. L'exemple le plus concret, c'est le site lestéléchargements.com, qui est donc un site qui devait permettre un débat entre les internautes, les artistes, pour trouver une solution de conciliation, et qui était en fait un enfumage. Le site est tout de suite démoli par les internautes, dans la mesure où c'est un site qui a un parti pris, qui est financé par la SACD, la SACEM et le ministère de la Culture, et on ne peut pas dire qu'il y a eu un réel débat là-dessus, puisque les artistes répétait, une propagande qui était répétée en permanence. Le lobbying en coulisses est énorme. Donc ça va des menaces qui sont faites par des cinéastes à des politiques qui ont pris des mauvaises positions. C'est dénoncé dans complément d'enquête par un député de l'UMP qui explique qu'en fait on fait pression sur les députés en leur menaçant de leur retirer les subventions, puisque la redevance copie privée qui a été évoquée, il y a 25% qui part pour financer les spectacles en commune et dans les régions, et les députés, ben, s'il y a moins d'argent pour financer des festivals dans leur circonscription, ils seront mal vus par les électeurs, donc c'est un moyen de pression qui est utilisé, on pourrait presque qualifier ça d'argent public. Donc le texte revient à l'Assemblée en deuxième tour, c'est pas une deuxième lecture, c'est juste qu'on continue la première lecture. Là, y a un magnifique tour de passe-passe qui est jugé par certains anticonstitutionnels, c'est-à-dire que la licence globale a été votée par le Parlement. Donc ce qu'on fait, on retire l'article, et on fait comme si, en fait, il n'y avait pas eu le vote. Sauf qu'il y a un coup de fil du président du Conseil constitutionnel au gouvernement pour lui dire « Mais ce que vous faites là, ce n'est pas constitutionnel. » Donc le lendemain, ils ont réinjecté l'article, donc ils ont remis l'article qu'ils avaient enlevé, et ils ont fait passer toute une série d'amendements qui étaient posés à l'article, mais bien avant, en expliquant que de toute façon, ça ne servait à rien, puisqu'ils avaient déjà posé l'article qu'ils souhaitaient voir comme article premier, après, et que c'est lui qui allait avoir valeur. Donc en gros, l'opposition quitte l'hémicycle face à un tel piétinement du droit d'amendement, c'est constitutionnel là. Après c'est un rouleau compresseur, c'est-à-dire que toutes les dispositions jugées, que nous on juge liberticides, attentatoires à la libre concurrence, au droit du public, à la vie privée, sont passées. Donc notamment les fameux amendements Vivendi Universal, qui sont des amendements, j'expliquerai un peu après pourquoi, ce qu'ils visent. Ils visent d'une part à interdire la technologie peer-to-peer en tant que telle, c'est-à-dire sans DRM. Le but, c'est d'imposer des DRM, des mécanismes de filtrage sur toutes les machines. Donc ces amendements sont passés. Il y a un amendement qui passe aussi, qui est un amendement secrétariat général défense nationale, qui vise à des fins de prévention de l'espionnage industriel. Alors on est sur un texte sur le droit d'auteur, et on se retrouve avec une intervention visiblement du secrétaire général de la Défense nationale qui, voyant bien que les mesures techniques de protection sont effectivement des logiciels espions et qui sont de plus en plus bas niveau, ça peut introduire des problématiques puisque un ordinateur est un outil versatile, c'est une machine universelle, il va traiter tout type de données et donc ça peut introduire des problématiques assez conséquentes d'un point de vue de la Défense nationale, la sécurité nationale, la souveraineté de l'État et la sécurité informatique des entreprises et des individus. Donc il y a cet amendement-là qui passe, ça montre un petit peu une première idée des enjeux stratégiques qu'il y a derrière. Et puis après il y a un magnifique salto arrière de la part d'une poignée de députés à 3h30 du matin le dernier jour qui en fait vote un article 7 qui vise à protéger l'interopérabilité, donc c'est la capacité qu'ont deux machines à s'échanger des informations mutuellement, à dialoguer. Comme je vous parle là, on parle tous en français, vous connaissez le français, c'est une langue d'interopérabilité, on peut s'échanger, on peut communiquer. Et donc ils font un magnifique salto arrière puisque le texte est purement répressif, tout a été enlevé et eux ils posent des dispositions protectrices pour le logiciel libre, pour l'interopérabilité, donc le droit du consommateur à pouvoir lire une œuvre avec l'outil de son choix, pouvoir la copier sur le support de son choix, et une protection relative mais quand même présente des droits du public en expliquant qu'une mesure technique ne peut pas aller au-delà de ce que permet la loi ou de ce qu'a autorisé l'auteur, c'est-à-dire qu'une mesure technique ne peut pas devenir la loi. Elle n'est pas un législateur, et c'est très bien. Et deuxièmement, elle ne peut pas aller au-delà de ce qu'a dit l'auteur, c'est-à-dire empêcher un usage que l'auteur aurait souhaité. Par exemple, les auteurs de Creative Commons, on ne voit pas pourquoi un dispositif technique pourrait empêcher la copie si la copie a des fins de redistribution, si l'auteur l'a décidé. Donc, le vote a lieu, et qu'est-ce qui se passe immédiatement après ? Lobbying monstrueux sur l'article 7, on va jusqu'au secrétariat d'État au commerce américain, qui sort officiellement pour soutenir Apple, qui dénonce une loi favorisant un piratage institutionnel. À nouveau, un indice sur les enjeux stratégiques. Pourquoi ? Parce qu'Apple fait ce qu'on appelle de la vente liée, c'est-à-dire qu'elle vend des contenus qui ne peuvent être lus qu'avec ses logiciels et qui ne sont achetés que sur son service en ligne. Donc, à nouveau, on se retrouve en face de pression monstrueuse. Vivendi remonte au créneau. On a Thomson qui arrive comme alibi de Microsoft parce qu'en fait, Thomson fait partie d'un consortium qui a racheté ContentGuard, qui sont des gens qui ont des droits de propriété intellectuelle sur les DRM. Et Microsoft s'était associé avec Time Warner, mais la Commission européenne, se rendant compte qu'il y avait un problème d'entente illicite, c'est-à-dire qu'ils allaient manger le marché, a... Oui, on va peut-être faire une enquête. Ils ont fait rentrer Thomson à un pourcentage complètement ridicule pour se donner un alibi. Et comme Thomson est une boîte, dans l'idée des députés, une boîte encore française, qu'elle n'est plus le cas, parce que c'est Thomson Multimédia, il faut rappeler que ça a été scindé, et qu'il y a des capitaux qui sont des capitaux flottants, donc c'est des capitaux de fonds de pension, Thomson a servi d'alibi à Vivendi pour pousser des dispositions qui intéressent Microsoft. Donc c'est ce type de lobbying qu'on a en coulisses. Donc le texte arrive au Sénat. Au Sénat, il passe tout. C'est-à-dire que le texte, là, c'est Jacques Ralit qui parle de rouleau compresseur. Il dit, en hémicycle, hein, il dit « Mes chers collègues, on s'écoute, mais on ne s'entend pas. Tous les votes sont préparés. Nous sommes face à un rouleau compresseur. » Et moi, j'étais au Sénat à ce moment-là. Et effectivement, les groupes s'appellent entre eux pour déterminer qu'est-ce qui va être voté, pas voté. Et on assiste d'ailleurs à un magnifique... il y a quelqu'un qui est pris en faute. C'est le monsieur Assouline qui, à un moment, il y a une disposition qui passe et qui vise à protéger le droit de contourner une mesure technique pour faire de l'interopérabilité. Et normalement, ça ne devait pas passer puisque le gouvernement et le rapporteur sont contre. Donc ça, c'est la majorité. Et il y a un député qui, à un moment, entend « Vas-y, son nom, lève la main », qui lève la main et ça passe à 11-10. Et donc le gouvernement et la majorité se retrouvent plantés avec leur demande de retrait de cette disposition protectrice donc de la libre concurrence. Et là, on voit donc ce monsieur Assouline, le sénateur, s'écroule, enfin poser trois fois la question au président de séance en lui disant mais c'est passé là, c'est passé. Et il avait l'air d'avoir un problème à ce que ça soit passé. Pourtant, c'est une disposition qui était intéressante. Donc c'est on est face à l'hémicycle, c'est un théâtre, et en fait tout est préparé à l'avance derrière. Donc le texte sort, il est complètement problématique. Alors rapidement, les dispositions. Donc normalement, le droit d'auteur, c'est un droit d'équilibre. Vous avez des droits pour le public et des droits pour les auteurs. Les droits pour le public sont connus sous le nom d'exception. Elles sont inscrites dans le code de la propriété intellectuelle, donc dans la loi. Jusqu'à présent, vous pouviez faire une copie pour votre usage privé. C'est-à-dire que vous pouviez, une œuvre avec laquelle vous rentrez en contact de façon licite, vous pouviez la copier pour votre usage privé. Il n'y avait pas de limitation de nom, il n'y avait pas de limitation de destination, il n'y avait pas de limitation d'outils pour faire la copie. Là, tout ça, ça tombe. Vous vous retrouvez avec possibilité de zéro copie, possibilité de vous imposer un outil de copie et possibilité de vous imposer les formats de destination et les supports. Le deuxième point, c'est que le droit de lire n'appartient pas au droit d'auteur. Vous avez le droit de lire un livre sans demander l'autorisation à l'auteur. Je rappelle que le droit d'auteur est un monopole d'exploitation qui porte sur l'exploitation de l'œuvre, pas sur l'utilisation en tant que telle dans un usage privé, et qui est opposable à tous. Donc vous ne pouvez pas faire, par exemple, vendre un disque, vendre une œuvre sans autorisation de l'auteur. Là, le droit d'autoriser ou d'interdire passe dans la sphère privée. Et via la technique, on va pouvoir vous interdire de lire. Donc, de facto, on crée un droit d'autoriser ou d'interdire la lecture. Et alors, on a les modèles de location évoqués par la dame qui représentait les producteurs et qui consistent à dire que vous pourrez lire deux fois, vous pourrez lire 24 heures, vous pourrez lire une fois. Ça, ce n'est pas du droit d'auteur, c'est autre chose. Mais le droit d'auteur, il n'y avait pas ces dispositions-là de contrôle de la lecture. Ça, c'est pour l'équilibre avec le droit du public. Et après, il y a tout un problème, c'est que le droit d'auteur passe en fait comme un super droit fondamental qui écrase tous les autres. Donc par exemple, votre droit au respect de la vie privée. C'est très bien évoqué, les logiciels espions. Vous avez normalement le droit. Vous rentrez chez vous, vous arrivez dans votre salle de bain, il y a une caméra. Elle n'était pas là avant, tout d'un coup, elle est là. Vous prenez une serviette, vous mettez quelque chose dessus pour éviter qu'on vous espionne. Ça me semble cohérent. Là, si c'est une mesure technique de protection, vous vous retrouvez avec un problème, c'est qu'une neutralisation à des fins de contrôle de vos données personnelles, qui est un droit qui est reconnu par la Charte européenne des droits fondamentaux, qui est un droit qui relève du droit au respect de la vie privée, c'est le droit à la protection des données personnelles en l'occurrence, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc le droit d'auteur passe au-dessus. Pareil pour tout ce qui est liberté de communication. Avec les dispositifs de filtrage, on va pouvoir interrompre des communications. Normalement, ça se fait que sur avec une autorité judiciaire qui intervient. Donc la technique se transforme en juge. Elle va estimer si votre usage est licite ou pas, vous l'interdire. Et si elle se trompe, vous ne pourrez pas en fait, prendre ce qu'on appelle une mesure conservatoire dans votre sphère privée, par exemple, neutraliser le dispositif qui porte atteinte à votre vie privée. Donc ça, c'est les mesures techniques en général. Pourquoi on peut dire ça ? Parce que toutes les dispositions qui ont été proposées pour justement empêcher ça ont toutes été rejetées. C'est un peu comme la disposition qui visait à dire le nombre de copies ne peut pas être limité en dessous de 1. Bah oui, ça serait 0, ça serait les interdire. Ils ont systématiquement refusé cette disposition. C'est bien que le but, c'est d'arriver à 0 copie. Les gens du DVD ne s'en cachent pas. Donc ça, c'est l'équilibre du droit d'auteur. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les exceptions pédagogiques. Par exemple, l'exception pédagogique qui a été mise en œuvre, il y en a une qui a été rajoutée, ne concerne pas les usages ludiques ou récréatifs. Donc pour enseigner, ça ne peut être que dans une logique de répression. Alors qu'on sait très bien que l'usage ludique et récréatif permet un apprentissage parfois plus rapide et on retient mieux. Bah ça, c'est pas possible avec l'exception pédagogique qui est passée dans le texte. C'est quand même surréaliste. Ensuite, il y a un problème de fracture numérique ou culturelle parce qu'on va imposer à tout le monde donc, des dispositifs. On veut que les fournisseurs d'accès commencent à filtrer, etc. Tout ça, ça va élever le coût de l'abonnement. On est obligé de mettre en place une usine à gaz technologique derrière qui a posé beaucoup de problèmes. Le fait de payer à la lecture, ça va augmenter le coût d'accès aux œuvres. Et en plus, il y a plus tout ce qui est prêt, dons, ça va commencer à diminuer. Le marché de l'occasion, même si en numérique, ça n'a pas beaucoup de sens, mais ça existait déjà pour un accès à un coût moindre. Tout ça, il n'y a pas de remplacement. Le fait de prêter, puisque si on lit une œuvre à une personne, comme c'est le but, pour prêter, ça devient difficile. Si vous n'êtes pas la bonne personne, vous ne pouvez pas lire. Vous ne pouvez lire que sur votre machine, etc. Il y a même des dispositifs de lecteur de DVD, c'est avec le pouce. Il faut mettre son pouce pour avoir accès donc aux films qui sont sur le dispositif. Après, donc il y a un problème pour l'image de la France en général, parce que le texte est totalement ridicule. Je pense que tu vas le démontrer sans aucun problème. Le texte est totalement ridicule pour toute personne qui fait un petit peu d'informatique, c'est complètement surréaliste. De plus, la France défend des positions traditionnellement de défense de la diversité culturelle et l'exception culturelle dans tous les faits et harcèle un peu les autres pays, notamment à l'ONU, etc., et a défendu lors du sommet mondial de la société d'information certaines dispositions. Ce texte s'inscrit en total porte-à-faux avec toutes ces dispositions-là. Notamment, il y en avait une qui expliquait qu'il ne pouvait pas y avoir il fallait faire la promotion de tout type de logiciels, les logiciels libres, gratuits, propriétaires. Tout ça, ça disparaît puisque le texte est clairement discriminant. Ça nous met en porte-à-faux. Il y a des dispositions, les amendements Vivendi ne sont pas forcément conformes aux obligations communautaires de la France. Et ensuite, après, il y a les problèmes de compétitivité et de libre concurrence. Alors là, c'est très simple. Tout un pan du travail de UCD Info, ça a été d'informer sur le logiciel libre. Et on commençait toujours nos entretiens avec les gens du ministère de la Culture, parce qu'on en a rencontré beaucoup, en disant, est-ce qu'on pourra lire un DVD avec un logiciel libre ? Qui est une question finalement assez idiote. Est-ce que je pourrais lire un livre avec des lunettes que j'ai achetées chez tel marchand et pas chez celui-là ? Et bien la réponse était toujours non. Après le vote de la licence globale, une fois j'ai eu droit à oui. Parce qu'ils s'étaient tellement fait tabasser qu'ils étaient en train de se dire « ouais, on va peut-être trop loin ». Puis après les lobbies ont fait leur travail. Et donc l'idée c'est que d'un point de vue de la libre concurrence, vous ne pourrez pas accéder à une œuvre avec un logiciel libre. Il y a une autorité de mesure technique des protections qui a été créée, qui est une magnifique usine à gaz par le Sénat, c'est une autorité administrative indépendante, qui pourra interdire à un auteur de publier un logiciel qui permet de lire une œuvre, de publier le code source de son logiciel. Donc on est face à de l'obscurantisme, dans la mesure où on refuse, d'une part, on refuse le droit d'un auteur à mettre à disposition son code source, la recette de son programme, qui permettrait de décrire le fonctionnement. Et ça, c'est des informations techniques. On est en train de chercher à censurer, c'est des lignes de code, ça fait une demi-page. On est en train de chercher à interdire ça. On est sur c'est clairement de l'obscurantisme. Et ça revient, c'est marrant pour un texte sur le droit d'auteur, ça revient sur ce qu'on appelle le droit moral de divulgation de l'auteur, qui est le droit qui fonde le droit d'auteur et qui fonde la liberté de création, la liberté d'expression. Et seul l'auteur peut choisir les conditions d'exploitation de son œuvre. Donc un auteur de logiciel libre qui décide de partager son œuvre avec d'autres devrait pouvoir le faire. Et là, on a une autorité administrative, c'est même pas une autorité judiciaire, c'est même pas un tribunal. C'est une autorité administrative qui va dire non. Tout ça parce que vous donnez la possibilité de copier une œuvre. Et on sait, et je pense que tu le développeras aussi, vu qu'ils veulent empêcher la copie, indirectement, ils empêchent la lecture, puisqu'il faut contrôler l'accès, il faut contrôler tout ce qui est fait, puisqu'en matière de numérique, pour lire, il faut copier. Donc tout est copie en matière de numérique. Donc il faut tout contrôler. Et c'est très bien expliqué dans le film, donc je ne vais pas y revenir. Donc le texte de CMP rapidement, c'est donc le texte du Sénat avec des dispositions donc, pour viser à imposer à tous les internautes des DRM, si vous ne les installez pas, vous vous retrouverez en infraction avec la loi et votre fournisseur d'accès aura obligation de vous en fournir au moins un. Donc on est en train de transformer les fournisseurs d'accès en collabos, puisqu'ils s'élèvent contre ça, parce qu'il y a une charge économique importante pour eux à faire ça, et en plus parce qu'ils trouvent que ça va beaucoup trop loin. Et un logiciel manifestement destiné, je donne quelques exemples, il y en a beaucoup, hein, un logiciel manifestement destiné à un usage illicite sera-t-il légal ? Et ça sera puni de 3 ans de prison ou de 300 000 euros d'amende, le fait de le mettre à disposition, de le concevoir ou d'inciter à son utilisation. Moi, je ne connais pas de logiciel manifestement destiné. C'est comme je ne connais pas de couteau manifestement destiné au meurtre. C'est des outils qui sont à double usage. Et là, on est en train de porter atteinte au principe de neutralité de la technique. C'est-à-dire qu'on présume une intentionnalité dans l'outil, pour le coup. Parce qu'aller démontrer que la personne qui a fait un logiciel peer-to-peer voulait que les gens l'utilisent pour échanger des œuvres illégalement. Et comme, par exemple, pour le logiciel libre, les logiciels libres de peer-to-peer ne vont pas intégrer de DRM, et de toute façon, ils devraient fermer leur code source, donc c'est quelque chose qui ne se pose pas. Mais comme il n'y a pas d'éditeur réellement, il y en a un, c'est l'éditeur d'Azureus, enfin c'est l'éditeur d'Azureus en France, qu'est-ce que vont faire les majors? Elles vont demander un filtrage. Et il y a tout le dans le texte, toutes les dispositions sont là pour demander un filtrage aux frontières. Donc on se retrouve au nom du droit d'auteur, on va commencer à filtrer les communications, un petit peu comme en Chine. Et l'amendement que je citais tout à l'heure, qui cherche à imposer des dispositifs de filtrage sur les machines des utilisateurs, s'inspire d'un amendement sur la protection de l'enfance. Donc on est dans une perte de valeur totale, où on a des atteintes aux droits des personnes qui sont sur la protection de l'enfance, pour empêcher l'accès à des trucs pédophiles, à des trucs pornographiques, à du racisme, etc. Et là, on se retrouve sur le droit d'auteur, et on justifie au nom du droit d'auteur une intrusion, une atteinte à la liberté, à la libre concurrence, des exclusions des auteurs de logiciels libres, uniquement parce qu'on pense qu'en mettant en place une usine à gaz qui est totalement inapplicable et qui ne fonctionnera pas dans une économie mondialisée, c'est évident, on va réussir à faire tomber le peer-to-peer, ce qui est complètement illusoire. Donc voilà un petit peu sur le texte, et après on pourra revenir sur les dispositions en détail.
Bonsoir, je m'appelle Olivier Hugo, je suis avocat. Moi je vais plus vous parler de la loi en elle-même. Je me suis pas mal intéressé sur les questions du peer-to-peer, parce que depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, j'ai eu l'occasion de défendre quelques internautes devant les tribunaux correctionnels qui ont été poursuivis par le ministère public, donc par l'État, et aussi par les ayants droit. Donc je ne vais pas revenir sur le contexte, parce que ça a été assez bien expliqué. Donc la loi, effectivement, c'est une loi qui a pour vocation de transposer la directive, donc notamment d'interdire le contournement des DRM en droit français, ce qui n'était pas le cas. Il y avait déjà des DRM sur différents supports, mais maintenant le contournement est interdit. Et le gouvernement en a profité également pour essayer de régler, de trouver une solution au problème du peer-to-peer, en tout cas de la nouvelle consommation en ligne des œuvres musicales, logicielles et cinématographiques. Donc il y a, je pense, trois points essentiels, enfin il y a beaucoup de choses dans cette loi, mais trois axes. Donc il y a les DRM, on en a parlé, donc le contrôle de la copie et de l'usage d'une œuvre. Il y a le traitement du peer-to-peer, donc à la fois on dit le fait d'utiliser des logiciels de peer-to-peer en tant que simple utilisateur à des fins non commerciales, c'est plus un délit qui est puni par 3 ans d'emprisonnement et 300 000 euros, c'est une simple contravention qui est punie par une simple amende, donc on ne va plus devant les tribunaux correctionnels. Mais en même temps, comme ça a été dit, on pénalise les éditeurs de logiciels par exemple. Enfin, la troisième chose, qui sera peut-être plus développée également par David, c'est sur l'interopérabilité. Et là, c'est plus un aspect, c'est effectivement dans le cadre de cette loi, qui est une loi sur le droit d'auteur, mais ça a aussi fortement une connotation à l'aspect droit de la concurrence. Est-ce que le marché va être verrouillé d'une certaine façon? On a parlé de vente liée, je pense qu'effectivement, quand on parle d'Apple et de iTunes, enfin de l'iPod et d'iTunes, plus exactement, il y a effectivement un problème de vente liée. Tous ces problèmes tournent en fait, et ça a été dit dans le film, sur la définition de la copie privée et l'acception de la copie privée. Alors, la copie privée, c'est quoi ? La copie privée, c'est le droit pour un membre du public, pour chacun d'entre vous, de faire une copie d'une œuvre pour son usage personnel et non commercial. La copie privée, en fait, ce n'est pas une exploitation. Le droit d'auteur, ça donne un monopole à l'auteur et aussi aux ayants droit d'exploiter l'œuvre, soit de la reproduire, soit de la diffuser. La copie privée, ce n'est pas une exception vraiment dans le sens où on parle d'exception, par exemple, l'exception pédagogique, puisque dans le sens même, la copie privée, ce n'est pas une exploitation, donc ce n'est pas tellement une exception, c'est vraiment un droit du public. Le droit d'auteur, comme ça a été dit, c'est un contrat vraiment entre l'auteur et le public. C'est fondé sur l'idée qu'à partir du moment où l'auteur, ou l'œuvre, pardon, a été divulguée par son auteur, il perd sur cette œuvre, il a toujours la paternité, mais il perd un peu une partie des droits qu'il peut avoir dessus, et le public en acquiert. Donc, L'exception ou le droit de copie privée, on ne va pas jouer sur les mots, existe depuis 1957 dans la codification du code de propriété intellectuelle qu'on connaît aujourd'hui. Il faut savoir, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'à l'époque, l'exception existait, mais elle n'était pas assortie de rémunération, ce qu'on appelle la taxe pour copie privée, enfin c'est une rémunération. En 1985, on étend le droit au droit voisin, c'est-à-dire le droit des producteurs et le droit des artistes interprètes, qui ont d'ailleurs été, tant les producteurs que les artistes interprètes, je pense, beaucoup plus loquaces pendant la loi que les auteurs, alors que c'est principalement, on parle du droit d'auteur, les droits des producteurs, comme leur nom l'indique, sont des droits voisins qui gravitent autour du droit d'auteur. Donc on étend la protection aux droits voisins, et en même temps, on étend la copie privée aux droits voisins également. Ça veut dire qu'on peut copier toujours une œuvre pour un usage personnel sans être contrefacteur vis-à-vis de l'auteur et sans être contrefacteur vis-à-vis du producteur ou de l'artiste interprète. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, donc en 1985, on a sorti ce droit d'une rémunération. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit qu'effectivement, en fait, la copie privée à ce moment-là est devenue une véritable exploitation à part entière, comme les CD, comme la diffusion sur les radios, comme la diffusion sur les télés. C'est une somme qui n'est pas négligeable. C'était en 2004 164 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. En 2001, on étend cette taxe qui était d'abord limitée sur les supports analogiques aux supports numériques. Donc en fait, on arrive en 2004-2005, donc quand les problèmes de peer-to-peer deviennent vraiment importants en France, ou en tout cas au moment où on s'en rend compte, on est dans une situation où on paye déjà. On paye déjà parce que lorsqu'on copie sur un CD ou un DVD, on a déjà payé une rémunération qui est répartie ensuite entre les différents ayants droit, et pour le spectacle public également, et pour la création. Il n'y a pas de copie privée de taxe, pardon, sur les disques durs. Bon, ça, c'est, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, sur le reste, sur les baladeurs numériques, enfin, sur tous les supports vierges numériques et analogiques, vous payez une rémunération. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que il n'y a jamais eu de débat ou il n'y a jamais eu d'affaire, à ma connaissance, sur le fait que tout un chacun ait le droit de copier une chanson lorsqu'il écoutait la radio avant sur sa cassette analogique, ou qu'il ait le droit de copier un film ou quelque œuvre que ce soit à partir de son magnétoscope ou de son platine DVD. Donc, voilà l'état du droit un peu au moment de l'introduction de la loi. La loi va effectivement modifier cet équilibre. Alors, c'est vrai que l'équilibre avait quand même été un peu perturbé par l'utilisation massive des logiciels de peer-to-peer. Donc on essaie de le rétablir. La première chose, comme je l'ai dit, c'est les DRM. Donc les DRM, c'est une limitation, on l'a dit également dans le film, au début c'est à la copie, et après c'est l'usage. C'est-à-dire qu'on se rend compte que petit à petit, on passe du droit de posséder une œuvre, enfin, on ne possède jamais l'œuvre, mais en tout cas du droit de l'utiliser comme on veut, à grosso modo une location. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi certains acteurs, ce vers quoi certains acteurs du marché s'orientent, c'est-à-dire on paye 10 euros par mois, on a accès à toute la musique qu'on veut, mais quand on arrête de payer, on n'a plus rien. Donc les DRM, ça permet quoi ? Pratiquement, ça permet une chose qui n'est pas négligeable, c'est de limiter le nombre de copies, et je crois que ça a été dit pendant les débats, de limiter ce nombre à zéro. Donc, quoi qu'a pu en dire le ministre, je pense que c'est une limitation assez importante sur un droit lorsqu'on ne peut plus copier du tout. De façon assez opportune, il y a eu une décision de la Cour de cassation qui a été rendue le 28 février 2006, justement sur ces fameux DRM. La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait condamné un producteur qui avait placé des DRM sur un DVD. Une personne l'avait acheté et avait demandé le remboursement de ce DVD et des dommages et intérêts, ce qu'elle avait obtenu. La Cour de cassation a dit une chose assez importante, c'est que certes on pouvait copier, mais les exceptions, en l'occurrence le fait de pouvoir copier, ne pouvaient pas porter atteinte à l'exploitation normale d'une œuvre. Ça, c'est les termes de la directive, et c'est maintenant ce qui est repris dans le projet de loi d'ATSVI. Toutes les exceptions du droit d'auteur, maintenant, ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale d'une œuvre. Alors, d'un point de vue du juriste, ça, c'est un peu embêtant, parce que je me dis, si je me retrouve devant une juridiction et que je dois essayer de deviner ce qu'est une exploitation normale de l'œuvre, je vais bien avoir du mal, et les juges aussi. Pourquoi ? Je me mets 15 ans ou 20 ans en arrière, quand on invente ou les premiers lecteurs VHS apparaissent sur le marché de la cassette est inexistant. Est-ce qu'à cette époque, introduire un lecteur VHS et le fait de pouvoir copier, ça allait nuire à l'exploitation normale des œuvres, des films ? Alors, ce qui est certain, c'est que ça a bouleversé le marché. Et je pense qu'à cette époque, si on avait eu cette limitation, il y aurait sûrement certaines juridictions qui auraient dit oui. Et c'est même plus que probable. Parce que ça a modifié tellement la façon dont on avait pensé le marché que ça causait, en tout cas les ayants droit l'auraient certainement dit, que ça leur causait, et ils l'ont dit d'ailleurs, que ça leur causait un préjudice. On sait ce qui est devenu des VHS et des cassettes. On sait que ça a créé un marché totalement nouveau. Donc cette nouvelle limitation, surtout les exceptions et droits d'auteur, me semble assez difficile à mettre en œuvre. La deuxième chose, comme j'ai dit, c'est qu'avec cette limitation de copie, maintenant, est-ce que c'est encore justifié de payer une rémunération pour la copie privée sur les supports vierges ? Parce que vous allez vous retrouver à télécharger sur iTunes ou un autre service en ligne une œuvre. Si vous avez de la chance, vous allez pouvoir, donc vous l'avez payé, vous l'avez acquis légalement. Si vous avez de la chance, vous allez pouvoir la graver sur votre lecteur MP3. Et si vous avez de la chance, beaucoup de chance pour le coup, vous allez pouvoir la graver sur un CD-ROM. Vous allez donc payer une fois l'œuvre pour la télécharger sur votre disque dur. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de taxe sur les disques durs, donc c'est déjà ça. Ensuite, vous payez une taxe, parce que quand vous achetez votre iPod, vous avez payé une taxe assez importante. Et ensuite, vous payez également la taxe sur les CD-ROM que vous avez achetés. Alors, dans la loi, ou le projet en tout cas, il est dit effectivement que la rémunération pour copie privée devra prendre en compte les usages et le nombre de copies. J'espère que ça sera fait, parce que là, effectivement, on aura l'impression de payer plusieurs fois pour la même chose. Concernant deux mots sur l'interopérabilité, je pense que c'est un point très positif de la loi. Je ne sais pas quelle est la dernière version qui a été...
Elle n'est plus là. L'interopérabilité au sens de la loi, du texte adopté par la CMP, ah bon, c'est pas de l'interopérabilité.
Bon, alors voilà. C'était le point positif de la loi qui apparemment n'est plus là. En tout cas, la version de l'Assemblée nationale était, était plutôt bien, puisqu'on allait devant le tribunal de grande instance. Ça avait l'air assez effectif. La version du Sénat était beaucoup plus limitée. Moi, je m'étonne toujours, en tant qu'avocat, lorsqu'on ne fait pas confiance aux tribunaux et qu'on crée des juridictions d'exception avec des professionnels. Moi, j'ai assez confiance aux tribunaux et je pense qu'on devrait leur laisser le soin de dire le droit. Je vais peut-être en revenir à l'aspect qui m'intéresse le plus. C'est la question du peer-to-peer et donc toujours cet aspect de la copie privée. On s'est rendu compte que depuis maintenant 2 ou 3 ans, il y a une véritable guerre, il y a une haine qui s'est installée, et c'est assez triste à voir, entre les auteurs, les producteurs et les utilisateurs, les consommateurs de musique, les gens qui aiment bien la musique, et un peu moins avec le cinéma, mais quand même aussi. Donc aujourd'hui, à l'état de la loi et de la jurisprudence, est-ce que le fait de copier sur votre ordinateur une chanson que vous avez téléchargée à partir d'un logiciel de peer-to-peer est illicite? Je vais vous répondre que non. Il y a plusieurs juridictions qui l'ont dit. Le fait de copier, alors je parle bien de la copie, hein, donc du download et pas de la mise à disposition. Le fait de copier, ça a été de plus en plus considéré par les juridictions, ces juridictions pénales, puisque le choix a été fait d'attraire les internautes devant les juridictions pénales. Il faut savoir que la contrefaçon est un délit à la fois civil et pénal. Donc on a le choix, avant d'introduire l'instance, soit d'aller devant une juridiction civile, donc on demande juste de l'argent, soit d'aller devant une juridiction pénale, donc on demande toujours de l'argent, bien sûr, mais on risque aussi des amendes, des peines de prison avec sursis, et bien sûr un casier judiciaire, sans parler toute la procédure pénale, c'est-à-dire garde à vue, la police et les gendarmes viennent chez vous à 6h du matin, perquisition, on vous garde jusqu'à 24h, on vous interroge. Donc quelque chose quand même d'assez difficile à vivre, pour lesquels les gens qui ont été mis en garde à vue ou qui ont été attrayés devant les tribunaux sont souvent, à 99% des cas, des primo-délinquants qui n'ont jamais eu affaire à la justice et qui se retrouvent devant un tribunal correctionnel sans savoir vraiment pourquoi. Ils se retrouvent également avec des demandes, bon, non seulement un risque de prison, de casier et des amendes, et également des demandes de dommages à intérêts, somme toute assez élevées. Donc, il n'empêche que la jurisprudence était un peu hésitante, parce que dans le doute, on condamne. Maintenant, elles ont un peu fait... je crois qu'il y a eu un peu une prise de conscience aussi, parce qu'à un moment, les juges se sont rendus compte que les gens qui étaient téléchargés, c'était leurs enfants, donc ils ont réfléchi à deux fois, que le download, effectivement, ou le téléchargement, c'est de la copie privée. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de faire une analogie. Si je prends ma cassette VHS ou ma cassette audio et que je copie de la musique, ben c'est un peu la même chose que si je le fais à partir d'un logiciel de peer-to-peer. C'est-à-dire que bon, je l'utilise pour un usage personnel et j'en fais pas commerce. Alors, l'upload, ça, c'est effectivement un problème qui est plus épineux, puisque autant l'exception de copie privée peut s'appliquer pour la copie à usage privé, autant lorsque l'on upload, ou qu'on partage ou qu'on met à disposition, par définition, c'est plus vraiment privé. Donc là, effectivement, les juridictions en général condamnent si cet upload est intentionnel. Pourquoi ? Parce que un délit pénal est constitué de trois éléments qui doivent être toujours présents. C'est l'élément légal, c'est-à-dire le texte, disant voilà ce que vous faites c'est illicite, l'élément matériel, c'est-à-dire faire ce qui est dans la prévention, faire ce qui est illicite, et l'élément intentionnel, c'est-à-dire avoir la volonté de faire ce qui est reconnu comme étant illicite. Or, quand vous téléchargez, je pense que tout le monde a la volonté de le faire, de télécharger en appuyant sur sa souris ou son clavier. Maintenant, lorsque vous mettez à disposition, c'est beaucoup plus délicat, parce qu'on sait très bien que, si ce n'est pas tous, la majorité, je pense tous d'ailleurs, des logiciels de peer-to-peer sont par défaut configurés pour partager, que parfois il est possible de ne pas partager, mais qu'en général, c'est par défaut et que les gens ne le retirent jamais. Et que de toute façon, si vous ne partagez pas, vous n'aurez certainement pas accès ou ne pourrez certainement pas télécharger. Donc il y a un peu une incitation à partager. Cependant, il y a une décision de la Cour de cassation qui date de mars 2005, qui avait assez clairement dit, alors ce n'était pas pour un problème de téléchargement, mais c'était pour une prévention pour la captation d'images pédophiles. Donc l'infraction, là, en l'espèce, c'était de copier des images pédophiles. C'est le cas, là, c'était une personne qui s'était connectée à partir d'un ordinateur d'une bibliothèque qui avait consulté des images pédophiles, mais qui ne les avait pas copiées, qui ne les avait pas imprimées. Cependant, les images avaient été reproduites dans la mémoire cache de l'ordinateur et l'enquête, les policiers les ont retrouvées. Donc il était poursuivi pour consultation, mais aussi pour reproduction. Il a été relaxé du fait de reproduction. Pourquoi ? Parce que cette reproduction n'était pas de son fait, était automatique. Donc on ne peut pas avoir, on ne peut pas préjuger d'une intention pénale, d'une automaticité. Et bien là, c'est un peu le cas aussi ici. Lorsque vous téléchargez, vous avez effectivement la volonté de copier, mais vous n'avez pas forcément la volonté de mettre à disposition. Alors parfois vous l'avez, c'est vrai, parfois vous le savez, parfois vous voulez partager, vous êtes mû par cet esprit de partage, mais parfois vous avez juste envie de garder la musique pour vous-même et de ne pas partager, ou voir où vous êtes vraiment, vous ne connaissez pas grand-chose en informatique et vous dites que moi je veux juste copier et je n'ai pas envie de partager, mais n'empêche que vous partagez, que vous ouvrez les certains ports de votre ordinateur et que vous donnez libre accès à toutes vos œuvres. Donc, l'upload, oui, c'est illicite si on veut le faire. Alors, il y a aussi un autre débat. On se dit, parce qu'au début, on disait tout le téléchargement, c'est illicite. Moi, je ne pense pas que ce soit vrai, en tout cas aujourd'hui. Peut-être que dans un mois, ça ne sera plus le cas, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors on s'est dit oui maintenant, mais en fait il faut télécharger à partir d'une source licite, et lorsque vous téléchargez, lorsque vous copiez à partir d'énergie, par exemple, énergie a payé des droits pour diffuser la musique, donc la source est licite, donc vous pouvez copier, mais lorsque vous téléchargez à partir de Casa ou d'Azureus ou ce que vous voulez, la source n'est pas licite, les gens qui mettent à disposition n'ont pas payé les droits. Alors, il faut savoir, encore une fois, que là, on est en droit pénal, que par principe, la loi pénale est une interprétation stricte, que dans l'exception, comme elle est rédigée à ce jour, de copie privée, on dit juste que c'est la seule chose qui est nécessaire pour que l'exception entre en jeu, c'est que ça soit un usage privé. À aucun moment, il est mentionné la source. Donc, les juridictions n'ont en général pas retenu cet aspect. Mais encore une fois, la Cour de cassation arrive à la rescousse et a cassé un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier qui avait relaxé une personne qui avait téléchargé et copié pas mal de films sur DVD. Et la Cour de cassation, a dit, et là c'est un peu bizarre, c'est un peu un problème de droit, les parties civiles avaient dit oui, il faut que la source soit licite, la cour d'appel n'avait pas répondu, et la cour de cassation a cassé disant vous aurez dû répondre. Donc elle prend vraiment pas position à savoir est-ce que c'est licite, est-ce que c'est passé licite. Donc on est retour devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui va se reprononcer, il y aura certainement une cassation par-dessus, donc la réponse n'est pas vraiment définitive. Donc avec le projet de loi d'ADSVI, maintenant, on met plus les internautes en prison. Bon, le ministre avait dit ça. Bon, à ma connaissance, il n'y a jamais eu aucun internaute qui a été mis en prison. Maintenant, on fait des contraventions. Alors, les contraventions, on dit 30 euros ou 38 euros et 150 euros. Ça, c'est pas marqué dans la loi. On attend le décret. Donc, est-ce que ça va être 30 euros par titre, 30 euros par méga ou ce genre de choses ? Moi, j'en sais rien. En tout cas, si c'est 30 euros ou 38 euros par titre téléchargé, ça risque de faire beaucoup plus cher que, ce à quoi les gens étaient sont condamnés en ce jour au niveau des amendes, puisque les amendes pour les affaires en cours, c'est souvent Bon, c'est des amendes importantes, mais qui ne sont pas non plus à 150 000 euros. Et c'est parfois, même assez souvent maintenant, des amendes avec sursis. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, à moins que vous vous refassiez choper une deuxième fois, ce qui est peu probable, vous ne payez jamais rien. Donc là, attention. Deuxième chose, l'amendement Vivendi, donc pour les logiciels. Alors, je ne sais pas quelle version a été adoptée là.
Vivendi, ouais. C'est la version. Donc, ils ont réintroduit pour le 12 bis l'alinéa 3 qui précise que les logiciels peer-to-peer à des fins de travail collaboratif, etc., ne sont pas visés par le dispositif. Donc, en gros, les couteaux manifestement destinés au meurtre sont interdits, mais ceux qui coupent la viande, le beurre et le poisson ne le sont pas. Donc, on est bien rassuré. Voilà. Donc, le 12 bis, c'est ça. Et le 14 quater, c'est. Ils ont gardé un logiciel principalement utilisé. Il faut que l'éditeur mette des DRM si le juge le décide.
Donc, ça, là, donc cet amendement est Vivendi. Donc, il va. Donc, à la fois, on retire un peu. On arrête de s'acharner sur les internautes et on va sur les éditeurs de logiciels. Donc, si je lis le texte, en tout cas, le premier alinéa, c'est dire on est puni de 3 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Le fait d'éditer. De mettre à disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un dispositif manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisé d'œuvres ou d'objets protégés. Donc moi, encore une fois, je rappelle que le droit pénal, c'est une interprétation stricte. Donc en lisant ce qui a marqué, on doit comprendre ce que ça veut dire. Donc moi, je veux bien qu'on dise sciemment, c'est l'élément intentionnel, très bien, ce qu'on appelle un dol spécial, il faut vraiment vouloir... faut sciemment éditer, sciemment mettre à disposition du public, sciemment communiquer au public. En général, ce genre de choses, là, on les fait sciemment. Mais un dispositif manifestement destiné à la mise à disposition du public, alors ce mot manifestement, je ne sais pas si ça passera le Conseil constitutionnel, j'espère pas, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je défie quiconque ici de m'expliquer ce que ça veut dire manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisé d'œuvre. Est-ce que le fait d'éditer un logiciel de peer-to-peer qui peut-être à ce jour est utilisé majoritairement pour mettre à disposition des œuvres protégées, mais qui dans un an, deux ans ou cinq ans ne le sera plus, à quel moment on se place pour dire ce qui est manifestement, et à partir de quel pourcent c'est manifestement 1%, 5%, 10%. On a eu ce problème-là avec l'arrêt Grokster à la Cour suprême, où il y a eu des débats un peu longs sur qu'est-ce qui est substantiel, pas substantiel, dans le côté licite, pas licite. La Cour avait dit à l'époque de Sony, donc c'est un arrêt qui date d'une vingtaine d'années, ce qui est 10%, si c'est 10% licite, c'est suffisant. Et là, on avait vu Grokster, c'est aussi 10% licite et 90% illicite, mais là, c'était plus suffisant. Donc, c'est un article qui me semble, pour le coup, assez dangereux, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Normalement, on devrait savoir pouvoir le dire. Il y a une chose qui est aussi importante. On parlait des libertés fondamentales et des données. C'est effectivement la mise en œuvre de l'aspect contraventionnel du peer-to-peer. Comment on va faire pour savoir ce que les gens téléchargent? On va devoir, il n'y a pas vraiment 36 solutions, un peu contrôler les réseaux, l'Internet. Donc on va passer, maintenant on est au radar automatique sur les autoroutes, maintenant on va passer au radar automatique sur les autoroutes virtuelles. Donc ça va être un traitement qui obligatoirement pour être efficace va être automatisé. Qui va le mettre en place, je ne sais pas. Mais ça c'est quand même un point important parce que personne ne l'aborde. Donc qui va mettre en place ce traitement? Quelle sera la mise en œuvre de ce traitement? On ne sait pas. Mais à mon avis, il y aura aussi pas mal de problèmes dans cette mise en œuvre. Donc voilà, donc j'abrège. Juste pour dire une chose, c'est qu'encore une fois, un truc qui n'est pas clair non plus, c'est lorsqu'on télécharge, là je ne sais pas quelle est la dernière version, parce que dans la version du Sénat, une contravention, dans la version de l'Assemblée nationale, c'est une contravention si on télécharge à partir d'un logiciel de mise en ligne.
Et le 14 bis n'a pas été touché.
Donc on reste au Sénat.
On reste au Sénat.
Donc de pair à pair. Donc si vous téléchargez à partir d'un logiciel de pair à pair, c'est une infraction. Et si vous copiez à partir d'un CD-ROM, ça ne serait pas licite, c'est contre 300 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Donc ça, ce n'est pas très logique. Et encore une fois, je ne sais pas si ça peut passer le Conseil constitutionnel. Bon, j'en ai terminé.
Merci.
chose. J'ai invité, mais il n'a pas pu venir, Dominique Lahari, qui s'occupe des bibliothécaires et de l'association interbibliothécaire. Et c'est aussi pour mentionner le fait que quand on parle des contenus numériques, on n'est pas seulement en train de parler de musique ou de film. On en parle beaucoup, évidemment, parce que ça touche plus de gens et que le peer-to-peer est essentiellement destiné à ça pour l'instant. Mais que l'ensemble de la loi DATSI, telle qu'elle est passée, concerne aussi les œuvres numériques, la copie pour les bibliothécaires, la possibilité pour les bibliothécaires de faire des copies de livres et de contenus autres que des contenus musicaux. Avant on va passer à David, et puis aussi sur cette question d'interopérabilité, comme on vient de le préciser, c'est l'article 7 et c'est l'élément essentiel qui fait que le texte tel qu'il est passé à l'Assemblée et le texte tel qu'il est passé au Sénat ensuite, c'est ce qui justifie des différences assez énormes qui auraient justifié une seconde lecture plutôt qu'une commission paritaire. Voilà, donc maintenant, David.
Bonsoir. L'affiche disait que je suis l'auteur d'un blog. En fait, je suis surtout chercheur en informatique à l'ENS. mais bon, je précise que je parle pas, c'est pas, ce que je vais dire n'est pas une position officielle de l'ENS ou du CNRS. Le cœur de transposition de cette loi, ce sont les mesures techniques de protection, parce qu'on a beaucoup parlé du droit des auteurs, etc., mais tout de même, l'objet de la loi, essentiellement, c'est de transposer une directive européenne qui vise à donner une protection juridique aux mesures techniques de protection. Donc, vous voyez bien, il y a des mesures techniques de protection, puis comme elles ne suffisent pas, on met une couche de juridique par-dessus. C'est quoi une mesure de protection ? En fait, on semble découvrir ça maintenant, mais c'est quelque chose de très connu en informatique depuis le début de l'informatique personnelle, puisque les gens copiaient les logiciels, en particulier les jeunes, et je pense en particulier aux jeux, et donc on a mis des dispositifs de protection pour les empêcher de copier. Donc c'est quelque chose de connu depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi on semble découvrir cela maintenant. Et c'est important de noter ça, parce qu'il y a un certain nombre des inconvénients qui peuvent se poser maintenant, qu'on connaît déjà. Comment ça fonctionne, toutes ces mesures à base de DRM ? C'est que vous allez avoir des matériels qui seront capables de déchiffrer certains formats de fichiers. Peut-être que l'autorisation de déchiffrement sera donnée à un ordinateur précis, par exemple, avec des systèmes d'échange de clés, des choses comme ça. Et évidemment, si votre logiciel ou votre matériel ne sait pas déchiffrer le type de données qu'on lui fournit, parce qu'évidemment, il y a plusieurs fournisseurs de systèmes de chiffrement, donc il y a éventuellement des systèmes incompatibles, vous ne pouvez pas lire vos données, même si vous les avez achetées. Bon, c'est ça tout le problème de l'interopérabilité. Alors, qu'est-ce que ça peut donner en pratique ? Par exemple, moi, j'avais un logiciel de lecture de DVD sur mon PC, et il avait décidé que je ne devais pas avoir le droit d'enregistrer mon DVD sur un magnétoscope. Et le problème, c'est qu'il ne savait pas distinguer si je branchais un magnétoscope ou ma télé. Alors, j'ai voulu projeter, si vous voulez, d'habitude, je regarde les DVD sur un petit écran, puis là, j'ai la famille qui venait, alors j'ai voulu projeter sur un écran plus grand, j'ai pris une télé, j'ai connecté, et c'est là que je me suis aperçu que le logiciel me disait, mais vous n'avez pas le droit parce que votre système ne met pas en place le système macrovision, enfin, bon, ce genre de choses qu'on a vraiment envie de dépanner quand on a des gens qui arrivent dans 10 minutes. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redémarré sous Linux, qui ne m'a pas cassé les pieds, pour cette histoire. Alors, le problème, c'est que bientôt, éventuellement, ça va être interdit. Donc, c'est un peu embêtant. Des systèmes de protection comme ça, il y a par exemple, vous n'avez peut-être pas entendu parler, il y avait un article, dans Le Monde, ou Libé, non, Le Monde, je crois, sur la protection HDMI sur la télé haute définition pour vous empêcher d'enregistrer les émissions et choses comme ça. Aux États-Unis, il y a une controverse pareille pour une loi, pour un truc légal qui s'appelle le Broadcast Flag. Bon. Également, on a beaucoup parlé là de cinéma et de musique, mais en fait, il faut savoir que le droit d'auteur, les textes sont protégés par le droit d'auteur. Donc il faut se dire que même un contenu textuel peut être concerné par ces fameuses mesures techniques de protection. Si vous prenez par exemple le format PDF que tout le monde ici, enfin tous ceux qui servent d'un ordinateur connaissent sans doute, c'est le truc Acrobat, là, ça sert à distribuer des documents sur Internet. Ce format-là, il y a un DRM dedans. Vous pouvez interdire à l'utilisateur d'imprimer votre document, mais il a le droit de le visualiser à l'écran. Et donc, ça veut dire que tous vos logiciels de bureautique sont éventuellement concernés par les DRM. Ce n'est pas simplement un problème de vidéo et de musique. Et bon, les DRM, c'est une chose, et puis il y a aussi la protection juridique que la directive européenne de 2001 nous impose de leur donner. Et c'est l'interaction entre les DRM et la protection juridique qui est vraiment ennuyeuse. Alors, premier problème des DRM, c'est pour les contraintes pour l'utilisateur. Là, justement, c'est pour ça que je rappelle l'expérience qu'on a eue en informatique. C'est bien connu que les mesures de protection en informatique posent des problèmes. Voilà, il y a régulièrement, moi je travaille dans un laboratoire, de temps en temps, le système oublie qu'on a des licences pour tel ou tel logiciel qu'on a acheté, parce qu'il y a un problème réseau, enfin des trucs toujours très casse-pieds quand vous en avez besoin sur le moment. Et c'est pas compliqué à comprendre. D'habituellement, en informatique, vous essayez de faire des dispositifs que même s'il y a des choses bizarres qui se passent, ils continuent de fonctionner plus ou moins. Avec un système de protection, dès qu'il y a quelque chose de bizarre, il arrête, il dit c'est interdit. C'est logique. Donc forcément, c'est des systèmes qui sont un peu fragiles. Par exemple, enfin, je reprends un autre exemple. J'ai un logiciel de musique chez moi. Ben, il avait oublié qu'il avait une protection branchée sur le PC et ça a été la croix et la bannière pour lui faire comprendre. Et pourtant, je suis tout de même chercheur en informatique, alors je ne sais pas ce que ça passe pour l'utilisateur de base. Donc, il peut y avoir d'autres inconvénients. Genre, votre musique a été téléchargée pour un matériel donné. Donc, je vais reprendre l'exemple du film. Vous changez une pièce de votre PC, puis il ne le reconnaît plus comme étant le même PC. Donc, il va dire, c'est un PC différent. Donc, vous avez fait une copie. Et le problème, c'est que vous étiez déjà à votre maximum de copies. Et puis voilà, tant pis pour vous. Donc, il peut y avoir des problèmes comme ça. Je ne sais pas si les éditeurs de contenu protégés se préparent à avoir des hotlines. Vous savez, comme les fournisseurs d'accès à Internet et les fournisseurs informatiques, toutes ces hotlines que nous aimons beaucoup et qui répondent avec une grande compétence. Donc, il y a déjà eu des problèmes. Il y a des CD et des DVD que les marchands ont dû reprendre parce que les utilisateurs ont considéré que c'était un vice caché, qu'ils ne pouvaient pas les lire normalement sur leur dispositif, sur leur chaîne IFI, des choses comme ça. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs des décisions de justice qu'on considérait que c'était un vice caché. Je tourne vers l'avocat. Confirmation.
Oui, ça a été cassé par la Cour de cassation. Ah,
tant pis. En tout cas... Il y a également l'affaire du rootkit Sony. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était aux États-Unis. Sony vendait des CD qui, si vous les mettiez dans votre PC, ils installaient à plus ou moins votre insu un petit logiciel qui après se mettait à vous espionner, qui permettait des connexions réseau, des choses comme ça. Ça a fini par se voir. Les experts en informatique ont vu ça et Sony s'est pris des procès. Ils ont dû faire une transaction qui a dû beaucoup les embêter. Et donc, on voit bien le problème, parce qu'on part d'un problème de protection du droit d'auteur, puis là, on est en train de parler de sécurité informatique, de chevaux de Troie et de virus. Donc, on voit bien qu'on n'est plus dans le domaine du droit d'auteur, on est dans le domaine de la technique informatique, là. Et c'est là aussi qu'on voit le problème de la protection juridique, c'est que si l'expert en sécurité, là, on l'avait menacé, mais attendez, là, en investiguant votre mesure technique, là, vous donnez plus ou moins un moyen de la contourner, vous n'avez pas le droit de publier ça, hein. On aurait pu le faire taire. Donc, vous voyez, il y a tout de même un danger à ce niveau-là. Bon, maintenant, quel est le problème pour le logiciel libre ? Alors, là, il y a un point tout de même assez important. Contrairement à ce que certains prétendent et qu'on semble vouloir faire croire aux parlementaires, je dis ça parce que hier, j'ai eu encore des appels téléphoniques d'assistants parlementaires qui me racontaient des choses qu'on leur proposait. Il n'y a pas de différence entre déchiffrer un contenu qu'on puisse afficher après sur un écran et déchiffrer un contenu sous une forme qui puisse être enregistrée. À partir du moment où vous déchiffrez le contenu avec un logiciel, ben, vous savez, c'est pas compliqué, hein. Il a le contenu chiffré là, il le déchiffre, puis alors là, soit il peut l'envoyer sur l'écran, soit il peut l'envoyer sur le disque dur, hein. c'est pas de la haute science. Ça, visiblement, on est en train de faire des fumisteries de DRM qui n'empêcheraient pas la lecture, mais qui empêcheraient la copie. Donc je vois pas ce que ça veut dire techniquement. Donc, à mon avis, le parlementaire non plus. Alors, il y a plus ou moins des solutions. C'est-à-dire qu'on peut tout de même donner un sens à ce genre de choses, mais ça impose de fliquer tout votre matériel. C'est-à-dire qu'effectivement, si on vous interdit d'utiliser le logiciel de votre choix, le matériel de votre choix, et que tout ça doit être agréé par un consortium extérieur, ça revient à voir que votre PC est une grosse boîte noire. Vous n'avez pas le droit de choisir ce qui se passe dedans. Là, effectivement, on pourra assurer cette fameuse sécurité des contenus. Enfin bon, je ne suis pas sûr que les utilisateurs, c'est ce qu'ils veulent, d'avoir une grosse boîte noire chez eux. Alors maintenant, quel est le problème pour le logiciel libre ? C'est que... D'abord, qu'est-ce que c'est le logiciel libre ? C'est juste une différence sur la façon dont on vous donne le logiciel. Quand vous achetez par exemple un PC avec Windows, ou vous achetez Office ou tout ce genre de logiciel, on ne vous donne pas le droit de le modifier, on ne vous explique même pas comment vous pourriez le modifier. Et quand je dis vous le modifier, pas forcément vous, mais engager une société qui le modifierait. Un logiciel libre, on vous le livre sous une forme qui vous permet de le faire modifier. Le problème, vis-à-vis de toute cette protection juridique sur les mesures techniques de protection, c'est que si vous faites un logiciel libre de lecture de contenu, ben, il va prendre son contenu chiffré, il va le déchiffrer, il va l'envoyer sur l'écran. Si vous le donnez sous une forme où on peut le modifier, quelqu'un pourra insérer la dérivation qui enregistre sur disque. Et c'est pour ça que profondément, un certain nombre de fournisseurs n'ont aucune envie qu'il y ait de logiciels libres de lecture, parce qu'un homme de l'art pourrait les modifier plus facilement qu'il ne pourrait modifier un logiciel propriétaire de lecture de contenu. Ceci dit, modifier un logiciel propriétaire de lecture de contenu, c'est possible, hein. Tous ces logiciels, les jeux, les choses comme ça, il y a des versions craquées qui circulent très peu de temps après la publication du logiciel. Donc je crois que finalement, ça ne changera pas grand-chose à la sécurité, mais par contre, toute cette protection juridique va poser beaucoup de problèmes pour les gens du libre. Alors ça pose un problème de concurrence, parce que si on vous interdit de lire tel ou tel type de contenu, parce que si seul l'éditeur qui a pondu le système de DRM a le droit de faire le lecteur, ça veut dire que les autres éditeurs de logiciels, on leur interdit de faire la lecture de ce type de contenu. C'est une sorte de propriété intellectuelle qui ne dit pas son nom. C'est un peu comme le brevet, vous avez un droit d'exclusivité. Sauf que là, ce sera un droit d'exclusivité sur les formats de fichiers. Bon, c'est un nouveau type, mais bon, on ne veut pas la... Ça vient en creux, on ne veut pas l'admettre ouvertement. Alors ça pose un problème si vous essayez de concurrencer les gens en place. Parce que par exemple, vous faites un format de traitement de texte qui peut incorporer des DRM, hein, c'est très raisonnable, vous pouvez vouloir éviter que mettre des restrictions à la dissémination des documents dans une entreprise, eh ben, votre concurrent n'a pas le droit de faire un lecteur compatible, puisqu'il se devra contourner la mesure technique de protection pour le faire. Là, vous pourrez l'accuser d'infraction à la législation sur le droit d'auteur. Donc c'est tout de même quelque chose qui va assez loin. Et j'insiste sur l'aspect bureautique, parce que de nos jours, la bureautique, ça comprend le texte, ça comprend aussi l'intégration de vidéos et d'images. Donc vous voyez, c'est tout de même un problème qui va assez profondément, et je pense que la version qui a été faite par l'Assemblée nationale permettait d'exiger cette fameuse interopérabilité, c'est-à-dire de ne pas donner un droit exclusif sur tel ou tel format de fichier à un éditeur particulier, et que la version faite par le Sénat, on a l'impression qu'ils organisent la concurrence entre un cartel formé des quelques producteurs de systèmes de DRM. Bon, je ne sais pas, on peut imaginer Microsoft, Apple, Sony et Real Media. Donc, c'est tout de même... En plus, c'est que des étrangers. Extra-européens. Alors, maintenant, je passais au peer-to-peer et aux amendements dits Vivendi universal. Je les appelle comme ça parce que tout le monde les appelle comme ça, y compris les assistants parlementaires, donc on va pas être hypocrite. Il y a 10 ans, vous aviez des sites web qui mettaient à disposition des contenus protégés. Hein, vous alliez sur des pages web, puis vous trouviez des fichiers, des enregistrements de telle ou telle musique. Ça s'est vu. Et les entreprises du monde du divertissement l'ont assez vite fait fermer ça, parce que c'était facile, savez-vous. Vous allez sur un site web, on peut retrouver le serveur, on peut trouver qui les héberge, on peut demander de le fermer. Il y a eu la réponse à ça, c'était l'utilisation de la technologie peer-to-peer pour faire de la dissémination de données. Là, vous supprimez de plus en plus tous ces serveurs centraux qui sont des cibles privilégiées. Donc vous voyez, il y a une sorte de course à l'armement entre d'un côté la répression et de l'autre côté les moyens technologiques, qui a commencé, je dirais, il y a à peu près une dizaine d'années. J'insiste sur le fait, par ailleurs, que peer-to-peer, c'est juste un terme technique sur une façon d'architecture, c'est une architecture de protocole réseau. Hein. On peut faire du peer-to-peer, par exemple, pour faire de la téléphonie en ligne. Une partie du protocole Skype, c'est du peer-to-peer. On peut faire de la sauvegarde de données en peer-to-peer. Hein. Ça ne se restreint pas à la dissémination de MP3 de Britney Spears. Alors, qu'arrivent là-dessus les fameux amendements dits Vivendi universel. Alors, il y a le 12 bis, dont on parlait, qui parle de logiciels manifestement destinés à transférer des données protégées. Le problème, c'est qu'à peu près tous les logiciels de transmission de données sur Internet, ils sont destinés à transférer des données de façon indifférenciée. Parce que pour savoir si un fichier qu'on vous donne contient des données protégées, c'est pas évident. Vous savez que des fois, pour savoir si quelque chose est protégé, il faut un procès à aller en cassation. Donc, là, vous avez un logiciel. Alors, après, on nous sort des histoires d'index, d'œuvres protégées. Alors, je ne sais pas comment ça se passe si, après, le fichier qui est transmis par l'utilisateur, il est compressé d'une autre façon, ou s'il y a un chiffrement par-dessus. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va aller chercher à l'intérieur. Enfin, bon, moi je ne comprends pas. Je ne pense pas que les parlementaires non plus. Mais en tout cas, ça veut dire que ça veut pas dire grand-chose, cet article-là. Et par contre, je pense que ça va créer de l'insécurité juridique, parce que si on ne sait pas vraiment ce qui est prévu, Je ne sais pas, qu'est-ce que vont faire les tribunaux pour savoir ce qui est manifestement destiné à faire de la copie illicite ? Peut-être qu'ils vont observer ce que font les utilisateurs. Alors ça, c'est pas mal comme raisonnement, c'est-à-dire vous faites quelque chose qui est neutre, et après on regarde ce que font les d'autres personnes sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, et puis on vous rend responsable pénalement des actes des autres. Bon, je crois qu'en droit, ça, c'est bidon. Et on peut, pour prendre un parallèle, vous savez que le World Wide Web, ça a été inventé à l'origine pour faire la documentation d'un institut de physique nucléaire qui s'appelle le CERN, qui est sur la frontière franco-suisse. Et en fait, assez rapidement, on s'est aperçu que c'était pas utile simplement pour documenter les neutrons et les protons, que c'était aussi utile pour disséminer de la pornographie. C'est même un gros usage du web. Et je ne pense pas que le CERN aurait aimé qu'on leur dise « Mais attendez, vous êtes responsable du fait qu'il y ait des enfants qui, en utilisant votre technologie, qui accèdent à des contenus pornographiques. » Si on avait commencé avec ce genre de loi à l'époque, on n'aurait jamais rien fait. Donc moi, ça me paraît un peu bizarre. Alors comme établir, c'est justement l'intentionnalité du fait que ce soit des œuvres protégées qu'on transmette, ils n'y arriveront peut-être pas, peut-être que l'article sera anticonstitutionnel, peut-être que les tribunaux refuseront de l'appliquer. Ils ont trouvé l'article 14 quater qui impose que les logiciels de transfert embarquent des filtres ou des autres moyens techniques. Alors, c'est une usine à gaz technologique juridique, cette affaire, parce que si vous voulez, quand je m'imagine comment les filtres pourraient fonctionner, j'imagine immédiatement le mouvement des éditeurs, des concepteurs de logiciels de peer-to-peer, après la réplique, etc. Également, les mesures plus répressives encore qu'il faudrait prendre pour que ça marche. Donc, vous voyez, je vois vraiment la course à l'armement s'engager, là. On annonce déjà des solutions de réseau plus difficiles à pénétrer, où les fameux radars automatiques ne fonctionneront pas. Bon, il y a un spécialiste du peer-to-peer, là, dans la salle, donc on pourra toujours lui poser des questions. Je pense que c'est une usine à gaz technico-répressive. Alors, peut-être que j'en viens à soupçonner qu'il y ait des gens qui font des systèmes de filtres qui ont réussi à vendre leur salade aux éditeurs de contenu, qui ont trouvé l'idée géniale parce qu'ils sont complètement affolés et qui ont réussi à vendre ça à la représentation nationale. Bon. Au final, on en vient à des gens qui demandent des filtrages aux frontières. Il y a un groupe que je ne connaissais pas, mais que j'ai connu à cette occasion, qui s'appelle Kyo. Le chanteur a dit « Ah oui, en Chine, ils arrivent à filtrer Internet ». Oui, bah effectivement, en Chine, ils arrivent à filtrer beaucoup de choses, y compris des encyclopédies en ligne où il y a des articles sur la démocratie. Donc, je vois les... Non, mais ce n'est pas une blague, ils filtrent Wikipédia en Chine. Donc, on voit tout de même le genre de référence que les gens prennent. Bon, pourquoi pas, hein. Alors, moi, mon point de vue là-dessus, si vous voulez, c'est que... Enfin, comme me dit un ami avocat qui est un peu cynique, de toute façon, moi, je me ferai de l'argent avec les procès qu'il y aura, et toi, tu pourras faire expert. Enfin, bon, je suis pas sûr que l'insécurité juridique soit un mode de fonctionnement acceptable pour une industrie. Alors, il y a la cerise sur le gâteau, c'est le 14-A, du texte du Sénat, qui impose aux titulaires d'un accès à Internet de le sécuriser. Alors, je crois comprendre d'où ça vient, cette idée. Ça sert à éviter que les gens disent « Ah ouais, mais attendez, c'est pas de ma faute, c'est quelqu'un qui utilisait ma connexion Wi-Fi sans que je ne le... » Enfin, ma connexion sans fil, hein. « Sans que je ne le sache. » Donc, effectivement, on va leur dire « Attendez, ben, peut-être que c'était sans que vous le sachiez, mais c'était de votre faute si vous ne l'avez pas sécurisé. » Alors, il faut savoir qu'actuellement, sur Internet, quand vous recevez tous vos spams, vous savez, tous ces courriers qui vous vantent le Viagra ou je ne sais quel autre truc, souvent, ils sont remis par des ordinateurs de particuliers qui font tourner des virus, des choses comme ça, ou qui ont des trous de sécurité. Et des fois, ces ordinateurs de particuliers font tourner des choses de mise à disposition de contenu. Ouais, j'ai déjà constaté ça chez un ami. Il disait « Ma connexion Internet rame beaucoup. » Et je lui ai dit « Oui, effectivement, ta connexion Internet rame beaucoup parce que c'est un espèce de serveur sur ta machine qui a été installé à ton insu. » Donc, ça veut dire que vous êtes tenu responsable de ce genre de problème. Alors, non seulement vous faites pirater, vous avez les désagréments, mais en plus vous êtes responsable des actions du pirate. Je trouve ça absolument génial. Bon, marquez, moi je suis, enfin, je pense que je peux m'en prémunir, mais enfin, bon, les gens dans la salle sont pas, auront peut-être, enfin, tout le monde ne sait pas forcément installer tous les dispositifs de protection. Puis des fois, les dispositifs de protection, ils n'arrivent pas à s'installer pour d'autres raisons. Donc, je pense que c'est une mine à problème encore cet article. Mais bon. Alors, pour conclure sur mon sentiment là-dessus. D'une part, bon, j'ai eu des contacts avec différents politiques là-dessus. Puis pour reprendre les termes de, je crois, du sénateur Jack Ralite, on leur fait voter des choses qu'ils ne comprennent pas. D'ailleurs, il y a différents lobbies qui leur mettent des amendements sous le nez. Ça leur, on leur explique que ça veut dire ça ou ça. De toute façon, bon, ils ne comprennent rien. Enfin, c'est, non mais si, enfin, c'est, tout le monde n'est pas forcément expert en informatique. Et là, on est tout de même dans des domaines super techniques. Donc, des fois, ils ont des propositions qui ne veulent rien dire. Après, moi, j'étais obligé de réfléchir à quel était, pouvait être le sens technique de certaines des phrases. Je me dis que les tribunaux, ça va poser d'énormes problèmes si, quand ils devront réfléchir à ça. Donc, ils sont complètement sous la pression des lobbies. Il y a des parlementaires qui ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça, des assistants parlementaires qui ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça depuis qu'ils travaillaient à l'Assemblée. On a eu des opinions d'artistes. Alors, bon, excusez-moi, mais je trouve que c'est la meilleure. Moi, je ne leur explique pas comment jouer de la guitare. Ils n'ont pas expliqué comment faire du filtrage sur Internet. Hein. Bon, faut être sérieux. Faut être sérieux. Je pense que tout ça, en fait, ça donne de plus en plus de pouvoir aux intermédiaires techniques. C'est-à-dire qu'à l'origine, en théorie, le pouvoir de droit exclusif appartient aux auteurs. Mais on sait bien qu'en pratique, il appartient à leur éditeur ou à leur producteur de l'œuvre qui est faite. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression que c'est un décalage en direction de l'intermédiaire technique, c'est-à-dire les gens qui font les sites web, les choses comme ça. Et moi, si vous voulez, si c'est les gros industriels de l'informatique qui prennent le pouvoir, c'est des gens coriaces, hein. Je donne... Là, je sors un peu de mon rôle d'informaticien, mais je donne assez peu de chance aux artistes français de se faire écouter, parce qu'à l'échelle internationale, comparé à des boîtes genre Microsoft, ils pèsent rien. Et j'ai vraiment... Là, ils vont se faire bouffer. Et je ne sais pas s'ils s'en rendent bien compte, à force de vouloir transférer le pouvoir à ces gens qui font des... Vous savez, Apple, ils vendent de la musique, ils vendent des baladeurs. Avant, ils vendaient des imprimantes, ils vendent des PC. C'est un business. Hein. On n'est pas en train de faire de l'art, là. Et puis, bon, mon point de vue personnel, sinon, c'est que bon, il y a peut-être des industries qui ont des problèmes de modèle de vente, des problèmes de circulation d'argent. Je ne vais pas m'exprimer, par exemple, sur la licence globale, parce que c'est des problèmes de l'économie, de la culture et du divertissement sur lesquels je n'ai aucune compétence. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont des problèmes et qu'ils essayent de refiler les problèmes, enfin, qui font des effets collatéraux sur d'autres industries, sans même essayer de comprendre, et qu'ils existent des choses, et puis bon, on finit par les voter. Ça m'intéresse un peu.
Est-ce que vous pourriez expliquer les mots copyright, oui, et copyleft, s'il vous plaît?
Donc copyright, c'est littéralement c'est le droit de copie, donc c'est le terme qui a été au départ en Angleterre, donc en 1600 et quelques, quand la reine Mary Stuart a créé le droit d'auteur pour contrôler la diffusion des livres via le cercle des libraires. Donc on y revient. Ensuite, il y a eu la révolution, on appelle ça droit d'auteur. Donc c'est le droit de réserver le droit de copie. L'auteur a le droit de se réserver le droit de copie et de le donner à qui il souhaite. Donc c'est un droit exclusif. Et au-delà de ça, ça désigne plus largement le régime juridique applicable aux œuvres aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons. Et le copyleft, en fait, c'est un renversement, entre guillemets, du copyright, qui consiste à ce que l'auteur donne des droits à l'utilisateur, et l'utilisateur peut utiliser ses droits, donc notamment le droit de copie, mais il doit le redonner au suivant. Donc en fait, on a traduit ça à la gauche d'auteur. Par rapport à copyright, ça se traduit pas littéralement. Et il y en a un qui consiste à... L'auteur garde le contrôle, et l'autre qui consiste à ce que l'auteur donne le contrôle, et personne peut reprendre le contrôle. Le contrôle se passe de main en main. Voilà. Il était clair ?
Je voulais juste savoir si j'ai bien compris, le but c'est qu'on achète un CD à chaque fois qu'on veut écouter la musique. Enfin, c'est-à-dire qu'on pourra écouter que le CD qu'on a acheté soi-même et même pas celui de notre voisin.
Bah, je ne sais pas s'il faut se placer au niveau des CD, parce que je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la durée de vie du support CD est maintenant limitée. En tout cas, pour ce qu'ils veulent... Ce qui est recherché par les producteurs, c'est vrai, c'est un contrôle maintenant de l'usage qu'on va faire des œuvres qu'ils vont mettre en vente. Donc l'usage, ça peut être effectivement le nombre de copies qui sera limité maintenant, ça c'est clair. On parle probablement de zéro copie pour les DVD, ce qui va sûrement être le cas. Donc on pourra plus copier un DVD et peut-être de zéro copie pour les CD, je ne sais pas, en tout cas de copies limitées. Et on va avoir, ou en tout cas il y a déjà des offres sur les produits dématérialisés, donc les téléchargements, où là c'est juste de l'écoute, effectivement. On peut parfois, il y a des DRM qui disent vous pouvez écouter 5 fois, puis après vous ne pouvez plus l'écouter.
Donc. Et alors j'ai une autre question aussi, c'est vous n'avez pas du tout parlé de ce qu'il était possible de faire pour nous ou pour, vous n'avez pas tellement parlé de l'avenir et de ce qui allait se passer, comment les choses pouvaient aller évoluer ou pouvaient évoluer et...
Pour voter une loi.
Déjà concrètement, il y a une action qui est très simple, c'est d'appeler son député. Et de lui expliquer, lui dire vous avez entendu parler du projet de loi droit d'auteur. Alors normalement ils ont entendu parler parce qu'en décembre ils se sont fait inonder de mails, donc ça a débordé, les assistants parlementaires recevaient des rafales de mails, ça a repris un peu là, mais c'est de l'appeler et de lui dire voilà, moi j'ai étudié cette loi sur le droit d'auteur, les conditions d'examen du texte sont totalement inacceptables. J'ai donné des exemples, mais il y en a plein, des exemples où il est clair que la représentation nationale n'a pas pu légiférer, comme on dit, en conscience, elle a légiféré sous influence. Donc il faut l'appeler pour dire que les conditions, vous trouvez ça complètement déplorable, le passage en force. Là, ce matin, donc on avait une commission mixte paritaire, c'est un texte où les deux textes de l'Assemblée et du Sénat doivent pouvoir se rapprocher. Ils sont arrivés avec 55 amendements que l'opposition n'avait pas vus, donc la majorité, et ils modifiaient 31 articles sur 35. Pour des textes qui ne sont pas très différents, ça fait quand même beaucoup. Donc dire ça, c'est pas acceptable, et dans le contenu, je trouve ça totalement inacceptable. Quel est votre point de vue, vous, en tant que député? Je vous demande pas le point de vue de votre parti, ça vaut particulièrement pour le MP ce que je vais dire là. Il faut qu'il décide maintenant, parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes sans doute qui ont suivi le débat. Tout le monde a vu, c'est un texte inapplicable, qui a des dommages importants et qui présente une vision de la société qui est à mon sens inacceptable. Donc il faut l'appeler. Donc il y a le numéro sur le site de l'Assemblée, vous avez sur le site eucd.info adresse. Il faut l'appeler et il faut lui mettre la pression. Et lui dire, moi je suis citoyen, je suis électeur, bientôt vous allez revenir devant moi, bah, si vous votez ce truc-là, d'accord, je saurai à quoi m'en tenir. Soit vous obéissez au lobby, soit vous prenez vos consignes au parti. Parce que c'est ça qui se passe, en l'occurrence l'UMP donne une consigne de vote, et tous les types ils votent, ils savent pas du tout. Il y en a peut-être 5, 6 qui se sont occupés du texte, les autres ils votent consigne. Ils ne savent même pas ce qu'ils votent. Donc il faut les appeler. Et puis après, il y a le fait... Alors il y a des gens qui appellent au boycott, donc des produits DRMisés. Il y en a d'autres qui appellent au boycott généralisé. Le truc de le faire savoir. Et puis après, concrètement, dans la vie de tous les jours, ça sera les tribunaux qui diront. Et puis surtout, ça sera de faire pression, par exemple, sur les candidats au présidentiel pour qu'ils prennent, même si les promesses n'engagent que ceux qui y croient, qui prennent des décisions. Il faut en faire un débat, ce qu'on a cherché à faire nous, et ce qui ensuite a essaimé. Par exemple, il y a Stop DRM Info, dont il y a des gens qui sont là, qui eux informent dans les FNAC, qui font des flash mobs et qui font des manifestations pacifiques dans les FNAC pour informer et dire que ce n'est pas une voie dans laquelle on veut aller. Donc là, c'est la démonstration moi, je trouve que c'est une démonstration du ridicule et du fait que la représentation nationale ne peut pas légiférer dans ces conditions-là sur un texte aussi technique. C'est inacceptable. Donc il faut, le premier point, vraiment, c'est d'appeler son député, à mon sens.
Il faut voir aussi qu'il y a une sorte de critique des gens qui sont, comme nous, opposés à... cette législation protectrice des DRM, qui est de dire que ce sont des groupuscules qui ne représentent personne et la population s'en moque. Et ça ne peut être contré que par un appel massif de la population. Sinon, on offre prise, évidemment, à ce genre de choses.
C'est-à-dire que nous, on a 165 000 signatures, donc validées, c'est-à-dire que les adresses mail derrière, on nous a bien répondu, il y avait bien quelqu'un à l'instant où il a signé. Voilà. Mais on va pas utiliser, on va envoyer un mail pour dire aux gens, c'est le moment de vous bouger. Donc on espère qu'on aura du retour sur les signataires qui vont bouger. Mais c'est vrai qu'un député en circonscription, quand vous l'appelez, donc chez lui, il se prend 10 coups de fil dans la journée sur le même sujet, il va commencer à lever la tête. S'il reçoit rien, il va croire son ministre qui lui dit « Mais non, mais c'est un texte d'équilibre, tout le monde est content, il y a juste les petits cons du logiciel libre, là, mais ça va, autrement, il n'y a pas de problème avec ce texte. » Et c'est ça qui va se passer. Donc il n'y a qu'une mobilisation citoyenne qui peut renverser la vape. À ce stade-là, il reste une semaine. Mais il reste une semaine, mais il faut pas oublier. Il y a un contexte politique actuellement. Les députés UMP, ils sont un peu paniqués de voir l'image qu'ils vont laisser, puisque dans 8 mois, il y a les élections. Et leur expliquer, bon, ce texte, hein, c'est un peu Dominique, il pousse là, il ne sait pas ce qu'il fait. Ça serait bien de lui mettre une petite claque pour qu'il comprenne. Éventuellement, ça peut aider, quoi. Donc, moi, j'ai fait une tribune qui explique ça, qui compare à Aguirre. Aguirre, donc, c'est ce film avec Klaus Kinski, un film allemand, où Aguirre, c'est un conquistador qui part à la recherche de l'Eldorado, il emmène ses troupes avec lui, et au final, il est tout seul sur son bateau, il n'y a plus que des morts, tout le monde est mort, et il hurle « Je suis la colère de Dieu ». Et avec le DATSI, c'est un peu ça. Passer un texte comme ça, en urgence, commission mixte paritaire, forcer le passage, interdire à l'opposition de faire son travail, poser 55, c'est n'importe quoi. Mais il y a aussi des forces, d'autres forces obscures derrière, parce que c'est une logique de parti. Il y a Nicolas Sarkozy qui intervient directement sur ce texte de façon très discrète parce qu'il sait que c'est extrêmement polémique, mais qui met des pressions énormes sur les députés de son gouvernement et sur de sa majorité sur le gouvernement pour qu'ils votent le texte et pas d'opposition. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit dehors. Et surtout, il ne faut pas qu'on sache que c'est lui. Donc c'est pour ça que je le dis. Ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment faire comprendre aux députés que lui, il va retourner en circonscription. Il va se représenter devant les électeurs, et quand vous habitez dans sa circonscription, il sait que vous allez pouvoir en parler à 10, 15, 20 personnes, et c'est un vote scrutin public, les noms vont être publics. Donc il faut lui dire, moi je vais voir s'il y a ton nom dessus, et ça contribuera à ma décision. On ne prend pas forcément sa décision sur un texte de loi, mais ça contribuera à ma décision. Donc il faut leur mettre une pression citoyenne pour le coup.
Je disais simplement, d'après ce que j'ai cru comprendre, un certain nombre de parlementaires pensent qu'au fond, ce projet de loi ne verra pas véritablement le jour, parce que comme ils ne veulent pas se retrouver tous les matins précisément devant le Conseil d'État pour bien vérifier la validité du texte, au fond, on n'aura pas véritablement le temps d'arriver jusqu'au bout. En tout cas, c'est les échos que j'avais eus précisément de Christian Paul et de certains d'entre eux. C'est peut-être possible, mais dans ces conditions-là, ce que je voulais peut-être savoir, c'est on peut encore être un petit peu optimiste et se dire qu'il sera possible lors de la prochaine législature de faire quelque chose. Et quelles sont les idées qu'on pourrait commencer peut-être à développer, puisque bon, on avait à un moment donné parlé de la licence globale, elle a été manifestement bloquée très net. Rien ne dit que le texte tel qu'il se présente maintenant va survivre à la législature.
Le vote a lieu le 30 juin.
Oui.
Donc, soit après la CMP, là, ils décident de ne pas programmer le vote, mais ce n'est pas ce qui est prévu, hein. C'est le vote a lieu le 30 juin. Soit les députés votent contre, le texte tombe. Soit, parce que Dominique de Villepin peut encore décider de ne pas présenter le texte au Parlement. Donc, soit ils votent pour et le texte est entériné. Et ensuite, jusqu'en 2008, donc on vit avec, enfin en 2007, mais jusqu'en 2008 en pratique. Et moi, je me demande quel ministre de la Culture rouvrira le dossier, vu ce qui s'est passé. Donc, faudra le faire, de toute façon.
Mais il sera impossible de ne pas le faire, de toute façon.
Oui.
Est-ce que vous allez mettre un décret d'application? Parce que techniquement, c'est impossible à mettre en œuvre le principe des DRM.
Mais tout n'est pas dans le problème, c'est que tout n'est pas dans le décret. Tout ne va pas être mis par décret d'application. Et puis, ça introduit l'idée dans la population que, par exemple, le contrôle est normal, que le droit de lire est contrôlable. Et toute la propagande qui a été faite depuis des mois et des mois avant le texte, à dire oui, la copie privée, ça n'existe pas, c'est illégal, etc. Là, il y avait une démonstration que s'ils changent la loi, c'est que ça existe. Mais une fois que ça sera dans la loi, ça leur servira de justificatif. Et il y aura tous les dommages collatéraux. L'insécurité juridique. Le vrai problème de ce texte, c'est vraiment, je pense, l'insécurité juridique généralisée pour tout le monde. Les hébergeurs, les fournisseurs d'accès, les gens du logiciel, les internautes lambda. Voilà, il y a un vrai problème là-dessus. Voilà, ça y est, j'arrive.
Et autrement, j'avais une autre question. Je voulais savoir si vous saviez ce qui s'était passé dans les autres pays européens concernant la transposition de la directive, si ça avait été aussi problématique ou pas, et si les DRM avaient été mis sur le tapis.
Alors, je ne sais pas pour tous les pays. En tout cas, je sais qu'il y a un débat maintenant dans les pays scandinaves pour l'adoption d'une licence globale. Donc, peut-être que dans un an... Si effectivement ce dossier est réouvert, on ne sera pas dans les mêmes dispositions qu'à ce jour. Surtout aussi, quand même, ne pas oublier, c'est que Alors, il y a eu beaucoup de critiques de la licence globale. Tout le monde maintenant dit c'est peut-être pas la solution, mais c'est peut-être une solution. En tout cas, on peut y réfléchir. Ce qu'il faut savoir maintenant, à ce jour, c'est que si on applique cette loi, il y aura des contraventions qui seront mises en place, même beaucoup de contraventions éventuellement. Ce sera de l'argent qui va être collecté par l'État. Qu'on n'a toujours pas résolu le problème de savoir comment on va rémunérer les ayants droit. Si les gens continuent à utiliser des logiciels de peer-to-peer, et même s'ils payent beaucoup, même si l'État récolte beaucoup d'argent, de cette façon, les ayants droit n'auront rien du tout. Et donc, ils ne seront pas mieux traités qu'aujourd'hui. Donc, dans un an, si on rouvre le débat, ce sera peut-être que les ayants droit réclameront la licence globale, pour le coup. Concernant les DRM, de toute façon, c'est une obligation dans la directive. Alors, je ne sais pas exactement dans chaque pays comment ce qu'il en est, mais bon, ça a été appliqué de toute façon assez durement. Mais on voit que les pays précurseurs en Australie ou aux États-Unis commencent à se dire que les DRM, c'est peut-être pas la panacée et que ça pose éventuellement pas mal de problèmes. Donc voilà, on a un peu de retard aussi là-dessus.
Juste, il y a eu les transpositions, donc tout le monde a transposé le cœur de la directive qui est la protection juridique des mesures techniques de protection des œuvres protégées. Et le Danemark a eu cette magnifique idée de dire « Ah oui, mais moi, je veux bien que vous contrôliez la copie, mais un dispositif de contrôle d'accès n'est pas une mesure technique. » Comme on vient d'expliquer tout à l'heure que pour contrôler la copie, il faut contrôler l'accès. J'en ai discuté avec quelqu'un qui fait du lobbying à l'OMPI, donc Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, là où ils ont fait les traités. Et il me dit, mais alors, qu'est-ce qu'ils protègent? Je lui dis, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ne protègent pas le contrôle d'accès. Donc les Danois ont une bonne idée. Et sur le fait que les précurseurs, en fait, c'était nous, dans l'histoire. L'Assemblée nationale avait passé un texte, l'article 7, qui était précurseur. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a enlevé. Et tous les pays scandinaves, je rappelle qu'on est 22e au classement des pays les plus compétitifs dans la société de l'information, le Danemark est 3e. Dès qu'ils ont vu le truc, ils ont repris. Hein. Et puis nous, on l'a enlevé. On va passer 30e, ils vont peut-être remonter 2e.
Il faut savoir aussi que les pays scandinaves en question, il me semble qu'ils sont sous pression du gouvernement américain actuellement.
Eux aussi, oui.
Eux aussi, hein. Faut voir que lors de l'examen de cette loi au Sénat, si regardez le compte-rendu des auditions de la Commission des affaires culturelles. À un moment, je crois qu'ils avaient 6 représentants, ils ont auditionné 6 représentants d'Apple, dont des avocats et autres... personne avec des noms ronflants, et enfin des titres ronflants, et il y avait Merci. Un représentant du logiciel libre.
Les personnes d'Apple sont venues en fait en avion directement des États-Unis, 4 sur 6, en fait ils étaient 14. Mais le président de la commission des affaires culturelles s'est dit non, là le ridicule, on pousserait beaucoup trop loin. Et donc la Suède a fermé récemment un site de lien sur pression du secrétariat d'État au commerce américain. Il y a un site qui s'appelle allofmp3.com, donc qui se trouve aux États-Unis, qui vend des MP3. Enfin, vous pouvez acheter au format que vous voulez. Les majors veulent fermer ce truc. Pareil, ils leur ont dit vous rentrez pas à l'OMC si vous faites pas fermer ce site. Les Suédois, ils leur ont menacé de pousser à l'OMC. Nous, en creux, ce qu'ils ont menacé, c'est de mettre la France. Comme ils ont une liste des États terroristes, ils ont aussi une liste des États pirates. Et en creux, ce que disait Apple en disant c'est du piratage institutionnalisé, avec une semaine après, comme par hasard, le secrétaire d'État au commerce américain qui dit oui, oui, elle a raison de défendre sa propriété intellectuelle. J'ai pas lu le texte, mais je suis d'accord. Ce qu'il disait en creux, c'est si on vous met sur cette liste-là. Donc, ça, on vous menace de vous mettre, ça génère des barrières économiques, ils empêchent vos produits de rentrer sur leur territoire, etc., etc. Donc, des mesures de rétorsion derrière. Donc, c'est vraiment. Il y a une pression du secrétariat d'État au commerce américain pour que toutes ces lois se durcissent et se renforcent. Et eux-mêmes, ils s'en émancipent chez eux, du DMCA par exemple. Ils sont en train de passer plein d'exceptions pour le contournement. Donc aux États-Unis, vous avez une mesure technique qui dysfonctionne ou qui est obsolète. C'est devenu légal de la neutraliser maintenant. Nous, on en est à un stade où faut même pas les effleurer, quoi. Donc ils renforcent nos lois et eux, ils s'en émancipent.
Donc... vous avez présenté un large éventail d'arguments contre la loi qui vont depuis mon gosse pleure à Noël en passant par flou juridique, impossibilité de mettre techniquement en œuvre la loi ou bien encore ingérence de puissances étrangères. La question est, pourriez-vous clarifier en fait, votre position en donnant à chacun d'entre vous l'argument qui, d'après vous, est décisif contre cette loi.
Inapplicable.
Insécurité juridique généralisée.
Ça ne sera pas efficace et s'embêtera beaucoup de monde. Pas les bonnes personnes, voilà.
J'avais une question qui concerne la notion de logiciel libre. Bon, si je prends une comparaison, il y a un temps où il me semble qu'on avait le droit de construire sa propre voiture et de la faire rouler, en fait, de la faire circuler, et puis ce droit a été restreint, et aujourd'hui on ne peut plus construire sa voiture et rouler dedans, par exemple. Mais en matière de logiciel, bon, par exemple, comme chercheur, j'utilise un certain nombre d'éditeurs qui sont des éditeurs open source. Dans quelle mesure ce que vous avez décrit serait susceptible de créer des restrictions futures sur la liberté qu'on a d'utiliser, de créer, par exemple, des documents avec ce genre de logiciel et autres?
Richard Stallman a fait une conférence il y a une semaine, il est venu en France donc pour la loi d'ATSI. D'ailleurs, il avait demandé à être reçu par le Premier ministre et il s'est retrouvé... Enfin, on ne lui a pas répondu. Ensuite, il y est quand même allé, ils l'ont arrêté à 100 mètres. C'est quand même quelqu'un qui a... Le projet GNU s'est reconnu trésor du monde par l'UNESCO, il est chercheur au MIT, quand même quelqu'un d'un peu connu, ils l'ont arrêté à 100 mètres avec des CRS. Bon. C'est une façon de faire du gouvernement aussi. Il a expliqué, moi j'ai un logiciel qui s'appelle Emacs. J'ai créé ce logiciel, donc c'est un traitement de texte qui est utilisé, enfin, pour les programmeurs, c'est un éditeur de texte. Et à l'intérieur, on peut lire des vidéos dans Emacs, parce que Emacs fait tout, presque le café. Donc à l'intérieur, on peut lire des vidéos. Et il a expliqué, moi, avec du logiciel libre, il n'y a pas de possibilité. Soit j'enlève la fonctionnalité de lecture de vidéos, soit je contourne et je tombe sous le coup de la loi, soit l'éditeur du DRM qui protège la vidéo me donne les informations techniques nécessaires pour interopérer et m'impose de fermer mon code, donc c'est plus un logiciel libre, soit il m'impose pas de fermer mon code, et à ce moment-là, je suis très ravi, parce que tout le monde pourra ensuite intégrer des fonctionnalités de lecture de vidéo. Mais voilà, les cas concrets, c'est ça. Apache, c'est pareil. Apache, est-ce que c'est un logiciel principalement utilisé au titre de l'article 14 Quater? Apache, c'est un serveur web qui est utilisé par 70% des serveurs web dans le monde. Donc c'est ça qui sert les pages Internet, c'est ça qui fait vivre le réseau, c'est avec ça que vous pouvez accéder à des pages web. Et Apache... C'est un logiciel. Est-ce qu'il est principalement utilisé pour la mise à disposition des sites Apache? Il y a quand même vachement de sites Apache qui mettent en ligne des images sur lesquelles ils n'ont pas de droit, des textes, qui prennent même du MP3, etc. Est-ce qu'on va commencer à dire à la fondation Apache, vous allez mettre des DRM et vous allez fermer votre code source? Concrètement, c'est ça le texte. C'est pour ça que c'est inapplicable, mais ça crée une insécurité. Moi, j'ai rencontré l'entrepreneur d'Azureus, qui est un logiciel libre aussi. Lui, il dit clairement, il dit, moi, j'irai ailleurs. Moi, je vais partir. Je ne vais pas rester dans un pays qui me traite comme ça. Et on est le seul pays au monde à aller aussi loin. Les amendements Vivendi ont toujours été refusés aux États-Unis. Mais nous, on les prend, quoi.
Mais une fois de plus, quel serait le risque? Par exemple, j'utilise LaTeX pour créer mes documents, disons, scientifiques. Quelle serait l'incidence que pourrait avoir ce genre de débat sur la possibilité que j'ai de réutiliser, de transformer des programmes qui me permettent de compiler du texte, par exemple? Je voudrais bien comprendre, en fait,
Oui, alors pour reprendre votre objection sur le véhicule, il me semble qu'en fait vous avez le droit de construire votre voiture, mais il faut la faire homologuer par les mines après. Mais ça, vous pouvez remarquer que c'est une homologation par un service public. Et il y a des projets qui traînent dans les cartons, mais bon, ça fait de telles levées de boucliers que ça ne passe pas. Qu'en fait, sur votre PC chez vous que vous avez acheté, vous ne puissiez faire tourner efficacement que des logiciels qui auraient été approuvés, entre guillemets. Si vous voulez pouvoir accéder à des contenus protégés, l'ensemble de vos logiciels, vos pilotes de périphériques, etc., doivent être approuvés, des fois qu'il y ait des fuites au milieu et qu'on vous autorise à enregistrer des choses. Donc il y aurait une sorte d'approbation par des sortes de cartels de producteurs, donc d'organismes privés. Bon, ça, on n'en est pas encore là. Mais dans le cas des Macs et de la tech, je vois pas... Pour la simple édition de texte et compilation LaTeX, je ne vois pas directement. Mais si vous prenez OpenOffice, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une sorte de suite bureautique qui fait traitement de texte, tableur, etc., qui se compare à Microsoft Office et qui est la suite bureautique officielle qui est utilisée par la gendarmerie nationale, si on veut prendre une référence institutionnelle. Cette suite bureautique, elle doit être capable de lire des textes des concurrents. C'est-à-dire, si vous faites un traitement de texte qui est incapable de lire des documents doc de FIS, et je suis désolé, personne ne l'utilisera parce qu'il y a des tas de gens qui vous envoient des documents Office sans même vous demander si vous savez les lire, si vous avez le logiciel pour les lire. Je suppose par défaut que vous avez Office, soit parce que votre employeur vous l'a payé, soit parce que vous l'avez piraté, comme la plupart des particuliers. Et donc, on se retrouve, enfin peut-être pas la plupart des particuliers, mais une bonne partie. Et on se retrouve avec une situation où vous devez être compatible. Sinon, vous êtes un produit complètement niche. Et si le format du logiciel dominant est un format qui permet de mettre en œuvre des DRM, il y a des justifications pour faire ça sur la bureautique. Notamment, je contrôlais la dissémination des informations au sein des entreprises et quand ça passe d'une entreprise à l'autre, les choses comme ça. Dans ces cas-là, il va falloir qu'il le lise, ce format DRMifié. Donc, est-ce qu'il pourra le lire ? Ça, c'est ça le problème. Puis pareil, dans une présentation multimédia, les présentations, vous savez, ce qui remplace les transparents. Bon, maintenant, on met des vidéos. Hein, on ne se contente pas de mettre une séquence d'images, enfin, du texte comme si c'était transparent noir et blanc comme il y a 15 ans.
Oui, donc on a bien compris que la loi n'est plutôt pas bonne. Mais en fait, le mal a été fait au niveau européen. C'est la directive qui n'est pas bonne. On ne fait que transposer une mauvaise directive, donc on va avoir du mal à avoir une bonne loi qui s'appuie sur une mauvaise directive. Donc, Christophe, tu as expliqué comment faire au niveau français. On passe un coup de fil à son député, c'est assez facile, il parle français, et on peut même le rencontrer, c'est pas difficile, ils sont à côté. Comment on fait au niveau européen ? C'est plus loin. On connaît beaucoup moins le fonctionnement des institutions. On ne sait pas ce qui est en train de se préparer, par exemple, maintenant, pour la prochaine directive sur le droit d'auteur. Donc ma question, c'est qu'est-ce qui se prépare et comment avoir un impact dessus, comment intervenir dessus ?
Ce qui se prépare, c'est l'harmonisation au pénal de toutes les atteintes potentielles au droit d'auteur. Donc ça s'appelle la directive IPRED 2, aussi connue sous le nom de Fourtou 2, puisque Madame Jeannélie Fourtou, qui était députée européenne, donc qui est la femme du célèbre Jean-René Fourtou, président du directoire de Vivendi, avait fait une loi qui s'appelait donc la directive Fourtou. Et elle voulait harmoniser tout au pénal. Mais le problème, toute atteinte, hein, même on mettait un CD dans la poche de quelqu'un, on voulait lui faire d'ailleurs, lui mettre un CD dans sa poche, pour qu'elle puisse être poursuivie par sa propre directive. Et le problème, c'est qu'il y a un problème de ce qu'on appelle un problème des piliers, les trois piliers, et il fallait qu'il y ait une décision du Conseil des ministres au niveau européen qui prenne cette décision-là. Donc il y a un accord, une décision cadre et une directive. Et donc, on voit arriver l'IPRED 2, qui est donc la Fourtou 2, et qui vise à harmoniser tout ça au pénal. Et alors, comment on fait pour empêcher ça ? Alors, il y a déjà des associations qui y travaillent. Donc, nous, on a rencontré notamment le BUC, qui est le Bureau européen des unions de consommateurs, et qui essaie d'organiser une campagne au niveau européen pour informer sur ces sujets-là. Il y a des gens du logiciel libre qui interviennent, il y a la FSF Europe, il y a la FFI, qui sont des gens qui ont lutté contre les brevets logiciels avec succès, puisque la directive brevets logiciels, à la fin, c'était les promoteurs de la directive qui couraient dans les couloirs en disant « ne votez pas ce texte ». Donc c'était plutôt bien fait. Et donc il y a déjà des organisations, il faut les soutenir. Et puis après, un député européen, il y a des députés français qui siègent au Parlement européen. Donc, il faut les contacter, et pareil, il faut faire aussi contacter les ministères. Enfin bon, c'est plus compliqué un ministère à faire plier, mais... Voilà, parce que en France, j'ai lu récemment un politique là qui disait il faut arrêter que les technocrates confisquent la démocratie. Nous, c'est à ça qu'on s'est heurté principalement. Quand on pouvait rencontrer des élus, en général, on arrivait à ce qu'il y ait un dialogue avec des hauts fonctionnaires. C'est beaucoup plus difficile. Il y en a beaucoup qui sont dans leur certitude et qui font ça sans voir plus loin. Notamment celui qui me répondait systématiquement non, vous ne pourrez pas lire un DVD avec un logiciel libre. Et ça ne lui posait pas de problème. Malgré tout ce que je lui expliquais après, notamment les problématiques qui ont conduit à ce qu'il y ait un article du secrétaire général de Défense nationale. Ça, il ne l'entendait pas. Puis finalement, c'est les députés qui lui ont amené, parce qu'il y a des gens qui les ont alertés là-dessus.
Puis aussi que la directive européenne, elle demande ça, et que ce que la loi accorde, c'est beaucoup plus loin.
Imaginons que le texte soit voté tel quel le 30 juin.
il faudra à peu près combien de temps pour entrer en application?
Ça peut être assez rapide et je pense que de toute façon il y aura une saisine du Conseil constitutionnel, ce qui me semble plus que probable. Mais bon, pendant l'été ou à la rentrée, très probablement.
Enfin, pour toutes les dispositions qui ne sont pas soumises à décret. Parce ouais. qu'après, il va falloir rédiger les décrets et les publier. Donc ça, c'est un acte politique aussi de publier un décret.
Est-ce qu'il y a d'autres questions encore ?
Il y a peut-être aussi le fait que, de toute façon, comme un certain nombre de dispositions sont floues, on pourra savoir ce qu'elles veulent dire vraiment qu'une fois que ça sera passé dans les tribunaux, devant les tribunaux.
À la cour de casse.
On y est encore pendant des années.
Hein. Oh bah, elle est déjà commencée. Le simple fait qu'il y ait les débats génère de l'insécurité juridique. Et le fait qu'ils fassent des allers-retours, ça a déjà commencé. Il suffit de voir la Cour de cassation qui prend en compte la directive européenne, mais qui prend surtout en compte le contexte général.
Juste une question qui peut paraître un peu idiote, mais est-ce que quand même il y aura une possibilité ou est-ce qu'il y aura un monopole à 300% sur tout ce qui va être téléchargé par les gros trusts industriels? Mais est-ce qu'il y aura quand même une alternative sur le libre arbitre de certains artistes de quand même mettre leur musique ou leurs œuvres de libre de droit et de les laisser circuler? Je donne un exemple aussi con que, par exemple, un groupe qui s'appelle Arctic Monkey, qui est vraiment ce qui se vend de plus, qui a un véritable carton en ce moment en Angleterre, mais aux États-Unis et en Europe. Et ces mecs-là, au départ, ils se sont fait connaître tout simplement parce qu'ils ont mis toute leur musique libre de droit sur Internet, parce que les monopoles des majors les trouvaient pas suffisamment mondains ou pas suffisamment bien placés au bon endroit pour pouvoir être signés, et que ces mecs-là, aujourd'hui, c'est une des plus grosses ventes. Donc est-ce qu'il y aura quand même pas une place pour la piraterie, mais encore d'avoir une possibilité, une liberté de certains artistes de se faire connaître, ou même d'artistes déjà connus, parce qu'on sait que par exemple David Bowie et tant d'autres aiment à mettre aussi des morceaux libres de droit pour dire fuck à leur propre major. Est-ce que ça sera jouable?
Disons qu'à partir du moment où, quand vous créez une œuvre, vous pouvez en disposer de la façon dont vous voulez. À partir du moment où vous êtes signé par un producteur, vous lui cédez pas mal de droits. Et donc là, vous ne pouvez plus faire trop ce que vous voulez. Et quand vous êtes auteur et que vous signez, vous adhérez à la SACEM, vous adhérez à leur statut. À ce jour, la règle de la SACEM, c'est de dire l'artiste, enfin l'auteur plutôt, peut diffuser gratuitement en streaming ses œuvres, mais il ne peut pas les offrir au téléchargement gratuit.
Sur son site perso.
Voilà.
Ils ont cette notion de site perso qui est assez intéressante d'ailleurs.
Donc si vous n'êtes pas, membre d'une association de gestion collective, vous êtes un artiste, vous faites une œuvre, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais bon, c'est un peu illusoire d'essayer de vivre de son art sans être membre de la SACEM, parce que si jamais ça commence à marcher et que vous serez diffusé, si vous êtes diffusé dans les radios, vous ne toucherez jamais rien, parce que voilà. Donc c'est compliqué.
Et la disposition pour le streaming, donc autorisée gratuitement à l'auteur sur ses propres œuvres, a été ajoutée pendant le débat. C'est-à-dire qu'il y a eu, parce que ça c'est apparu tout d'un coup qu'en fait la SACEM interdisait à ses sociétaires de mettre à disposition leurs propres œuvres dans les conditions qu'ils souhaitaient, via les conditions générales. Et ils ont fait un geste comme ça à toute vitesse, de dire oui mais non, on autorise sur les sites perso. Donc j'ai un ami qui a appelé et qui travaille dans une collectivité locale qui produit des groupes locaux, et il y en a qui sont SACEM, et il a demandé est-ce que je peux, et il leur a dit bon, ils veulent mettre à disposition en ligne sur le site de la collectivité, est-ce que je peux, et l'autre a dit non, vous pouvez faire que des sites perso. Il a dit bon, moi je vais faire un sous-domaine pour chaque artiste, donc par exemple il y aura artiste 1 point le nom de domaine, et puis comme ça chacun aura son site perso. Voilà.
Bon, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Moi, j'ai une question qui porte plus sur le logiciel libre. On a l'impression que le débat sur cette loi, ça a été l'occasion pour le logiciel libre de se faire connaître d'un point de vue de militantisme d'une manière différente de ce que ça avait été avant. Et avec, par exemple, l'action de Stop DRM et de tout ça. Et qu'est-ce que c'est votre expérience de ça? Est-ce que ça a vraiment changé depuis 3 ans? Est-ce que ce genre d'action de rue même va évoluer. Est-ce que ça a un impact réel sur le logiciel libre en tant que tel, indépendamment de la loi sur le droit d'auteur?
StopDRM a une action beaucoup plus large que le logiciel libre. Déjà, UCD Info, qui était une émanation de la Fondation pour le logiciel libre, cherchait à aller plus loin. C'est-à-dire, on avait vu qu'il y avait un problème pour les auteurs et les utilisateurs de logiciels libres, mais pour le public en général, pour les bibliothèques, pour le domaine public, parce qu'on n'a pas tout évoqué. Donc voilà. Ce que ça a changé, c'est que déjà dans l'hémicycle, il n'y avait jamais eu de débat sur le logiciel libre à ce stade. Il y a eu des dispositions qui ont été inspirées clairement par des propositions qu'on a faites, mais qui nous étaient publiques, étaient mises sur notre site, et les députés pouvaient les reprendre, tout le monde pouvait les reprendre, etc. Donc il y a eu un vrai débat là-dessus. Après, sur le grand public... Je pense que peut-être le mot logiciel libre a dû être répété un certain nombre de fois, c'est beaucoup apparu. On a eu des soutiens comme les syndicats de musiciens de jazz, des groupes comme le Peuple de l'Herbe qui ont fait une tribune dans l'Humanité où ils parlaient du logiciel libre en tant que tel en disant qu'eux, ils ne voulaient pas en tant qu'artistes impacter sur ce modèle de développement-là, etc. Donc ça a permis de diffuser. Et ensuite, sur les actions qui sont mises en œuvre, il y a des gens donc, dans StopDRM qui font du logiciel libre et qui en viennent. Mais ça, moi, je pense que ça a surtout permis d'élever le débat et de le soulever tout simplement sur ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, sur les dérives, à notre sens, pour nous c'est des dérives ou les évolutions, les adaptations pour parler de façon neutre, sur ce thème-là. Et ça, ça a permis de le faire connaître et ce que ça pourra amener.
Oui, il faut voir que dans ce débat, et beaucoup de gens ont parlé de logiciels libres et qu'on a l'impression que c'est, comment est-ce qu'on dit en français ? En anglais, un buzzword. C'est-à-dire quelque chose que tout le monde dit. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais beaucoup de gens emploient le mot. Et puis, beaucoup de gens, on leur a dit que c'était bien. Donc, c'est bien. Mais qu'en fait, beaucoup étaient très flous sur le concept. Il y avait dans l'esprit de certains une association entre logiciel libre et puis logiciel gratuit, logiciel de piratage, logiciel financé par la publicité, hein. Je vous encourage à chercher. Si vous cherchez un peu sur Google, vous tomberez sur un rapport rédigé, je crois, par des gens de la culture du Parti Socialiste qui expliquait que les logiciels libres étaient financés par la publicité.
Et Catherine Tasca l'a dit en hémicycle. Donc,
voilà. Bon, mais bon, Madame Tasca est une experte du droit d'auteur et de la culture, mais pas de l'informatique, ce que je peux comprendre. Mais il y a tout de même un certain flou dans les idées et c'est un peu, il y a toujours cette association avec éventuellement le piratage, les choses pas nettes, toujours dans les associations d'idées. Ce que j'ai trouvé assez frappant, c'est qu'on commence à parler du piratage et puis après on vous sort des histoires de réseaux pédophiles ou de terrorisme, des choses complètement sorties de l'espace. Donc c'est vraiment très délicat de séparer. Pour pas mal de gens, tout cela est rangé dans une espèce de catégorie mal définie appelée Internet, où il se passe des tas de choses effrayantes et éventuellement intéressantes, mais qui ne comprennent pas très bien les différences.
Donc, moi, je fais partie du collectif StopDRM. Donc, justement, on n'est pas du tout logiciel libre à la base, on est juste un groupe en fait, de gens qui sont réunis parce que, tout simplement, on était scandalisés de voir l'installation petit à petit des DRM, parce qu'en fait, il faut savoir quand même que ça existe déjà. C'est déjà sur la plupart des CD que vous pouvez acheter chez EMI ou ce genre de choses à la FNAC. Vous avez un petit logo, c'est un triangle noir dans un rond noir. Et ça veut dire copy controlled. Et en fait, ça veut dire qu'il y a des DRM déjà sur les CD que vous achetez. Et donc nous, on cherche en fait, le but en fait, de StopDRM, c'était de faire des actions pour prévenir le grand public de ce genre de choses et informer justement qu'il fallait pas soutenir ce genre de produit. Il faut savoir aussi que donc, du coup, on soutient tout ce qui est plateforme en fait, de vente de musique en ligne, qui se fait sans DRM. Il faut savoir que ça se développe petit à petit. Il y a de plus en plus de plateformes qui se développent et qui refusent tout ce qui est DRM en pensant pertinemment que c'est absurde de vendre des produits qui sont dévalués en fait par rapport aux produits originaux, puisque de toute façon, on ne peut pas en faire ce qu'on veut de façon générale. Donc voilà, je vous invite à participer. Donc, au niveau des actions qu'on va continuer à faire, je pense, enfin moi je m'en vais, c'est des actions qui se poursuivent de façon internationale parce qu'en fait, il y a la Fondation du logiciel libre aux États-Unis qui s'est développée et qui a lancé donc une autre action qui s'appelle Defective by Design, qui fait aussi des actions du même type, donc qui sont des mini-manifestations. Donc on va dans des FNAC, on va devant le siège d'Universal, on fait ce genre de choses et on essaie de prévenir le grand public et de tracter. Donc je vous invite aussi à participer, n'hésitez pas.
Merci.
Moi, je posais cette question justement parce que j'avais vu que cette forme de militantisme de StopDRM a été exportée via la FSF aux États-Unis et que ça commençait à faire une sorte de débat dans la communauté open source et logiciel libre sur la validité de ce mode d'intervention.
Ah oui, non, c'est... Ok. Il y a un débat sur le rapport. En fait, est-ce que l'ouverture du code source est un sujet juste pour donner accès au contenu du logiciel, enfin au fonctionnement du logiciel d'un point de vue technique, ou est-ce qu'il y a une défense à faire des libertés à l'ère du numérique que le logiciel libre représente? Donc il y a un débat qui est un peu présenté comme un débat entre des ingénieurs qui voient quelque chose de pratique dans l'ouverture du code source et donc dans le logiciel libre, dont le code source conditionne l'exercice de liberté. Et il y a l'AFSF qui a une vision qui, elle, est l'objectif, c'est la défense, c'est de permettre l'exercice de liberté dans l'ère du numérique et donc de les défendre quand des DRM arrivent. Voilà. Après, sur les méthodes d'action, c'est encore autre chose.
Oui, vous avez parlé tout à l'heure d'exécution de logiciels qui seraient subordonnés. Donc vous avez parlé tout à l'heure d'exécution de logiciels qui seraient vraiment subordonnés à un type de matériel donné. Enfin, si j'ai un peu compris, est-ce que vous pouvez un peu développer? Parce que si ça donne une vision absolument cauchemardesque, on pourrait imaginer que tout le monde souhaitant écouter Britney Spears serait obligé d'acheter un type d'ordinateur et qu'ensuite, justement, ce monopole qui serait accordé à un éditeur ou à un fabricant d'ordinateurs permettrait de remettre en cause plein de normes qui font, par exemple, fonctionner l'Internet. Est-ce que vous pouvez justement nous dire si ce risque est réel ou si ce n'est pas?
Il y avait des propositions de ce qu'ils appellent le trusted computing. Alors, faut se méfier du vocabulaire parce que c'est un vocabulaire, on vous dit, c'est l'informatique à laquelle vous pouvez avoir confiance, et c'est présenté comme un plus pour l'utilisateur, sous-entendu c'est sécurisé pour vous. En fait, c'est surtout sécurisé pour les gens qui font le contenu, puisque ça veut dire concrètement que votre ordinateur que vous achetez qui est chez vous, vous ne pouvez vous en servir qu'avec les choses auxquelles le fabricant du système d'exploitation fait confiance, ce genre de choses là avec que éventuellement des matériels réputés compatibles. C'est un peu déjà ce qui se passe quand vous avez votre système qui refuse de jouer à un DVD parce qu'il pense que la carte graphique ne met pas en place la chose qui est censée brouiller le magnétoscope. On vous impose d'utiliser telle chose avec telle chose, et sinon ça ne marche pas. Bon, en matière d'informatique, hein, l'aventelier, hein, c'est vieux comme l'informatique. Hein, les grands fabricants faisaient une ligne de terminaux qui ne marchait qu'avec matériel qui ne marchait qu'avec leurs terminaux et leur imprimante. Hein, ça existe depuis très longtemps. C'est pas nouveau. Et ils sont en train de mettre ça, puis avec une bonne couche juridique dessus pour empêcher que les gens osent faire des choses compatibles. Ce serait gênant.
Voilà, donc Samuel qui a remporté le prix qui s'est appelé No Datsy Mix Contest, c'est ça? Je ne sais pas parler anglais. Voilà.
Bon, bah bonsoir, vous m'entendez? On entend la guitare? Je suis très content qu'on m'ait invité ce soir, j'ai appris plein de choses. Faire juste une chanson ou deux. Celle que vous avez entendue à la fin du film tout à l'heure, si je me souviens des paroles, c'est pour ça que je les ai amenées. Je chante très peu en fait. Gars, après votre loire, venez boire un petit coup chez moi. Dans mon canapé, on écoutera la Starac. Sur mon iPod, y'aura plus que ça. On achètera de la musique copyrightée jusqu'au bouton play. Sur des sites de vente en ligne sécurisés pour faciliter l'accès à la diversité. Télécharger, c'est illégal. Le pire tout pire, c'est l'axe du mal. Il y a l'amateur et le professionnel. Un simple consommateur et un auteur. Pa-da-pa-da-pa-da-da-da-da. pourrait refaire le monde à la lumière d'un monde plus libre. On pourrait ensemble récolter le fruit de notre travail commercialisé. On pourrait mutuellement s'aider sans avoir universal comme allié. Se faire de la thune sans être abject envers ceux qui nous ont écoutés. Je pourrais choisir mon mode de diffusion et sans prendre les gens pour des cons. On pourrait vivre avec son temps sans regretter celui d'avant quand le numérique naissait et qu'on pouvait pas copier les CD. Quand les majors du disque choisissaient un artiste par tranche d'âge pour mieux se rincer, télécharger, c'est illégal. Le pire tout pire, c'est l'axe du mal. Il y a l'amateur et le professionnel, un simple consommateur et un auteur. À cause de votre loi, j'irai bien me taper sur la gueule avec tous les éditeurs de vos systèmes de DRM. Ceux qui pensent que la répression, c'est la solution, que l'éducation passe par la vulgarisation, parce qu'on ne s'adresse qu'il y a des cons, qu'il y a le bien et le mal, et que le mal c'est nous, parce que c'est un complot du mal, ils nous font croire qu'ils nous veulent du bien, alors que c'est le mal, et que le mal c'est bien connu, c'est pas bien. Avec tous ceux qui nous ont oubliés, dans leur doctrine, la musique, toute la musique, avec tous ceux qui rêvent à mettre nos crânes sous vide, à rêver, devant des compiles de Britney Spears donc. Et les gars, on pourrait en faire une loi qui défendrait nos intérêts, on pourrait être tous potes, tous égaux, dans un monde plus beau. En vrai les gars, je sais que jusqu'ici, j'ai chanté pour mes amis de l'ENS, et pas ceux qui font semblant d'ignorer notre existence, et c'est dommage, parce qu'il y a urgence, enfin il y avait urgence à l'Assemblée. Merci. Je suis un peu fatigué à cause d'hier soir en fait, hein. C'est vraiment dommage. Je vais vous en faire une autre parce que la musique libre, c'est aussi de la musique. Non, moi, je suis pas si engagé que ça. Elle s'appelle En bord de national. Je vivrais bien en bord de national, dans un village entre le clocher et le canal. Loin de la banlieue sud, bande kilométrique 700. Profiter tout l'été du chassé-croisé des estivants. Sont moins cons sur notre hémisphère, c'est qu'une question géographique. Eux qui vivent depuis toujours dans la misère n'ont pas nos mêmes repères. C'est du pareil au même qu'en France, sauf qu'il y a un peu plus de souffrance. Mais pour les pauvres, c'est différent. Je déménagerai bien à l'autre bout de la terre, mais y a pas de RER pour la mer. Là où les gens sont pauvres, ça pour les rendre moins cons, mais leur rend aussi cons ceux qui n'en ont pas. Je m'envolerai bien au-delà de l'atmosphère, atterrir sur Mars, mais surtout quitter la Terre. Faire la moindre apesanteur à toutes les martiennes et voir si elles sont bonnes mais connes comme les terriennes. Les gens sont moins cons sur l'autre hémisphère, ce n'est qu'une question géographique. Eux qui vivent depuis toujours dans la misère n'ont pas nos mêmes repères. C'est du pareil au même qu'en France, sauf qu'il y a un peu plus de souffrance. Mais pour les pauvres, c'est différent. Je quitterai finalement le système solaire, la galaxie. Sur que sur la route, je croiserai encore des patates déguisées en Barbie. Me réfugier dans l'espace intersidéral. Il y aura peut-être moins de cons dans le règne végétal. Je suis déjà vieux et je pourrais te quitter. Je m'appellerai Henri et je me prostituerai. Je suis le cow-boy du monde moderne, égoïste à plein nez. J'ai de la coque dans les narines, jamais pour toi un centime. Je suis carriériste et j'aime les choses à deux balles. On vit tout seul, excuse-moi, t'aurais pas 100 balles. Et je regarderai le monde crever devant mon journal télé. Je l'aime tel qu'il est, je me battrai pour aucune idée. Hey! Je suis en
supposons que l'Occident, je suis un titan dédommagé. Je suis l'évangile emprisonné, prêt à prêcher sa liberté. Je suis les barreaux de ma propre cage pour m'y enfermer. J'ai sur moi des images volages. Je suis en osmose avec l'Occident, je suis un titan dédommagé. Je suis l'évangile emprisonné, prêt à prêcher sa liberté. Je suis les barreaux de ma propre cage pour m'y enfermer. J'ai sur moi toutes les images volages. On a quelques petits problèmes techniques. Je vais vous en faire une dernière, hein, parce qu'il est tard. À moins que vous ne vouliez pas. Non, ça vous plaît ? C'est libre, hein, vous pourrez le télécharger. Petite chanson triste pour finir, alors. Chanson d'amour. J'avais un peu perdu le nord quand elle me dit viens, on part au sud. Et la fumée venait de l'ouest, j'avais pas peur, c'était une fille de l'est. Sans quitter l'autoroute, quand passe le péage, elle me dévisage. J'allume une clope, on n'a plus qu'à s'envoler et dans la fumée s'en aller danser. Bord de mer, quand le soleil se couche, après l'heure de repos, elle se recouche. Je vide une bière, puis j'accélère, passe les vitesses, les vitres en ouverte. Sans visa, nous partons déjà, son visage m'envisageait ailleurs. Sans viser, je laissais pour de bon mes amis d'ici et pour l'heure. Petit matin, au poste frontière, après un café, quand elle refait surface, j'avais passé la nuit et la douane stupéfait, les yeux fatigués, rouges et cernés, des passés trafic en simple transit qui plus tard atteindront d'autres rivages. Le béton gris rayonne les lignes jaunes des fils, remplace le bitume froid de ma ville. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais pour eux nous sommes toujours en guerre contre un ennemi imaginaire, des envies loin d'ici, dispersées mal habiles. J'avais un peu perdu le nord quand elle me dit viens, on part au sud. Et la fumée venait de l'ouest, et j'avais pas peur, c'était une fille de l'est. Sans quitter l'autoroute, quand passe le péage, elle me dévisage. J'allume une clope, on n'a plus qu'à s'envoler et dans la fumée, s'en aller danser. Merci, hein. Les gars, après votre loi, venez boire un petit coup chez moi. Dans mon canap, on écoutera la Starac. Sur mon iPod, y aura plus que ça. On achètera de la musique copyrightée jusqu'au bouton play. Sur des sites de vente en ligne sécurisés pour faciliter l'accès à la diversité. Télécharger, c'est illégal. Le pire tout pire, c'est l'axe du mal. Il y a l'amateur et le professionnel. Un simple consommateur et un auteur.